Mettez-en qu'on en jase à Boulevard 102-1 à midi, une minute. Merci d'être à l'écoute. Merci ceux qui viennent de joindre à nous. Merci ceux qui nous écoutent depuis ce matin dans Marceau le matin. On est presque en programmation régulière à l'heure actuelle sur les ondes de Boulevard 102-1. Yannick Marceau et Max Larouche sont les hommes en vacances cette semaine. Ce qui fait en sorte que le matin, c'est moi, Jeff Fortin, qui anime avec Pascal CV et Alex Laramé. Pascal CV s'occupe du point de Max avec Mathias Surcotte. Mathias reste avec moi pour On en jase le midi de midi à 14h. Et l'équipe complète du retour. Et de retour depuis hier, Denis Gravel, Véro Bergeron, Audrey Pinchot. C'est la programmation pour cette semaine. La semaine prochaine, ben Max va revenir à son poste, c'est-à-dire le matin à l'animation du point de Max. Puis moi, ben je vais redevenir co-animateur le matin, puis je vais animer On en jase.
On retourne dans les bottines.
C'est ça. Puis Mathias Surcotte va rester avec moi dans On en jase. Alors, voici ce qui s'en vient pour les prochaines semaines à Boulevard 102-1. À la météo, guys, vous l'avez vu aujourd'hui. Hey, as-tu vu le beau ciel bleu, Matt? C'est le fun, ça? C'est-tu good vibes only à ton goût?
Hey, puis je peux te confirmer que pour beaucoup de familles, c'était good vibes only aussi. Là, tantôt, le trafic pour aller au village vacances Val-Cartier,
ouais?
Jeff, c'était ridicule. Fait que selon moi, on a beaucoup de personnes, beaucoup de familles qui profitent de la belle température
exactement.
Présentement.
Donc, chapeau à ces familles-là. Profitez-en. Profitez de vos vacances. Je suis tellement content de vous annoncer que c'est 26 degrés aujourd'hui, c'est 28 mercredi, puis c'est 30 jeudi. Et c'est soleil à côté. Moi, je pense aux gens là, t'sais, qui travaillent fort sur leur roulotte pour se faire un beau setup de camping. Ils sont sur un camping à l'année. Puis ils trippent là. Ils ont plein d'amis. Les enfants, les ados trippent ensemble. Je pense notamment au camping Lac Georges à Val-Alain où le centre sportif est juste incroyable. Puis là, ils pognent trois jours de même quand ils sont en vacances.
Ça, c'est la récompense.
Ah oui.
Ça, c'est la récompense pour toutes les heures travaillées dans l'année.
Ah, oh, tellement!
Puis pour toutes les heures mises sur, justement, leur
ben
aménagement
oui.
extérieur. Là, pendant ces journées-là, oh mon Dieu, qu'ils ne regrettent pas ces heures.
Ah, là, pendant ces journées-là, là, la bière peut se déboucher à 10 heures le matin. Là. Ah,
il n'y en a plus
c'est...
de stress.
Non, 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 c'est excellent. Je salue Carl qui nous souhaite bon midi. Il est en route, il est à Dartmouth ce matin. Christian qui nous écrit presque une heure se rendre à l'Hôtel Dieu de Lévis. De l'Hôtel-Dieu de Lévis à l'hôpital Paul-Gilbert à Charny. Donc, il y a du trafic rien qu'en masse. C'est les vacances. On reste syntonisé à Boulevard 102-1. Puis on reste calme et chill, les amis.
Si jamais vous êtes pris dans le trafic puis vous nous écoutez, n'hésitez pas à ouvrir votre fenêtre en attendant parce qu'il fait chaud. Puis si vous êtes pris dans le trafic, ben c'est surtout que vous êtes sur la rive sud, là, comme Christian vient de le dire. La 20 direction ouest entre Taniata et Président Kennedy, très difficile actuellement. En direction est, c'est entre Taniata et Avenue des Églises. Puis la raison pourquoi c'est très difficile, je vous dirais, c'est que dans le secteur de Guillaume Couture, à hauteur de Chemin du Fleuve, en direction sud, c'est complètement bloqué du pare-choc à pare-choc.
Il y a encore des travaux là.
Ben, c'est ça. Un peu plus tôt cet été, durant une semaine, on avait eu des travaux dans le secteur. J'imagine que les travaux ont dû reprendre maintenant que les vacances de la construction sont terminées. Donc, si jamais vous vous dirigez de Lévis vers l'ouest, ben, sachez qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Là. Vous allez devoir attendre malheureusement.
Exactement. Donc, c'est ce que vous devez faire. Patientez et puis écoutez Boulevard 102. Pour écouter Boulevard 102, vous le savez, il y a notre application également, BLVD 102, qui est disponible sur App Store et Google Play Store. Et si vous êtes à la maison, tranquille, pas dans le trafic, écouteur intelligent, vous dites écoutez BLVD 102.1 et c'est nous qui apparaît dans vos oreilles immédiatement. Donc, c'est plusieurs façons de nous écouter et d'interagir avec nous. C'est au 418-971-1021. Mathias, ce matin, on a reçu Laurent Favant, qui est un immigrant français qui travaille dans une entreprise en Beauce, un travail spécialisé où lui a les diplômes pour le faire au niveau de la production de fertilisants. Puis Laurent Favant a vécu un épisode très dur, c'est-à-dire la mort de sa fille pendant qu'il est ici au Québec, sa fille de 21 ans en France. On l'écoute résumer son histoire, puis par la suite, ben, je vous reviens avec les bonnes nouvelles. Écoutez bien cette histoire invraisemblable.
Alors moi j'ai des études en France dans le nucléaire, j'ai travaillé pendant 20 ans dans ce milieu et j'ai été pompier volontaire paramédic en fait pendant 30 ans. Mais il y a 27 ans en fait, j'ai failli venir ici déjà. À l'époque j'étais en contact avec Hydro-Québec pour la centrale nucléaire de Gentilly et avec l'École nationale des pompiers du Québec. Et puis, bon, la vie a fait que ça s'est pas fait. Et 27 ans plus tard, seules les filles grandes, j'avais toujours regardé ça dans un coin de la tête et je suis venu tenter l'aventure, en plus avec le PEC.
Alors, lui vient tenter l'aventure, c'est le PEC. Il est heureux, il s'en vient au Québec. Ses deux filles sont rendues à l'âge adulte, autonomes en France. Et quand j'avais toujours rêvé de venir au Québec, je vais venir m'installer. Répond à tous les critères. Répond aux critères du PSTQ avec emploi spécialisé. Répondait à l'époque aux critères du PEC. Il est français. Donc, on n'a pas besoin de le franciser. Puis, son entreprise débourse 6 000 pour le faire venir au Québec.
Très, mais ça coche beaucoup de cases,
hein?
Jusqu'à maintenant.
Pas pire, hein?
Oui.
Là, il se retrouve pris dans le délai administratif du PEC PSTQ. Quand le PEC ferme, puis là, on ouvre le PSTQ, il y a eu cette fameuse période latente-là, là, de 4 à 6
Qu'est-ce
mois.
Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça
va
fonctionner?
Où est-ce que je peux déposer ma nouvelle demande? Bon, etc. Et puis, à ce délai-là, il faut ajouter le fait que c'est le fédéral qui délivre les permis temporaires. Donc, tant que la CAQ n'avait pas fini de chicaner entre eux autres, là, parce que eux autres même qui chicanent entre eux autres, là, François Legault, Christine Fréchette, Jean-François Roberge, François Bonnardel, Bernard Drainville. Fait qu'à un moment donné, quand la CAQ a tout démêlé ça dans sa tête après à peu près 6 mois, bien là, le fédéral, évidemment, a pris 2-3 mois de délai avant de délivrer les permis.
Ah ben, c'est habituel.
C'est ça, parce qu'on est une très grosse bureaucratie. D'ailleurs, on va parler de cette grosse bureaucratie-là avec Gabriel Giguère aux alentours de 13h. Et... Là, ça fait en sorte que ce monsieur-là, Laurent Favant, s'est retrouvé plus de permis de travail temporaire le 12 juin. Mais écoute, c'est pas grave, man, si t'as plus ton permis. C'est notre faute. On a causé des délais administratifs. Fait que continue à travailler. Fait que lui, continue à travailler. Bravo.
Ben, c'est, pas de problème. C'est ce que le ministre Lightbound avait annoncé, là, qu'on mettait
Exactement.
Une période tampon pour permettre le renouvellement des permis.
En plein ça. Sa fille décède. Il dit, je vais tout de même bien retourner en France enterrer ma fille, comme tout bon père de famille.
Ben en fait, je veux dire, sa fille de 21 ans meurt.
Ben, c'est
là.
Ça, là.
C'est la moindre des choses que cet homme-là puisse retourner auprès de sa famille, retourner en France pour les funérailles de sa fille.
Ben oui, putain, je veux dire, Laurent Favant qui fait ça, tout parent ferait ça, puis on souhaite à aucun parent de vivre la mort de son
enfant. Ah, vraiment pas.
Jamais, jamais, jamais. Et moi, j'aurais le cœur brisé en 1000 morceaux si ça m'arrive un jour. Je ne sais pas comment je ferais pour continuer à avancer. J'aurais vraiment besoin d'aide. Puis lui, il est là au micro un mois plus tard, puis il est stoïque, petite larme aux yeux, mais très, 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 très calme. Fait qu'il s'en va en France, il enterre sa fille, il revient. Mais là, M. Favant, vous n'avez plus de permis. Oui, mais j'ai plus de permis à cause de vos délais. Non, 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 mais c'est parce que vous n'avez pas le papier, vous n'avez plus de permis.
Mais on m'avait donné la permission de travailler, là, il y a de cela une semaine, quelques mois,
Exactement.
Quelques semaines.
Puis lui, il a tout fait pour être sûr d'aller enterrer sa fille. Il a envoyé au service d'immigration le certificat de décès de sa fille, son billet d'avion, combien de temps il partait, combien de temps il revenait. Il a appelé, on lui a dit qu'il ne faudrait pas que vous partiez plus qu'une semaine. Il est parti seulement une semaine. Il a tout respecté les règles, il a travaillé en prévention, mais quand il est revenu au Canada, on lui a envoyé une lettre en lui disant « Ben là, il faut que vous déposiez une nouvelle demande, c'est 120 jours de délai. »
Fait qu'on lui dit « Vous pouvez revenir au sein du pays, mais pendant 120 jours au minimum, là, en attendant qu'on vous redonne votre permis, vous pouvez pas travailler. »
C'est ça, mais on lui dit ça quand il revient, pas quand il est en France.
Ça, c'est du jugement.
C'est quand il revient qu'on lui dit ça. Fait que ce matin, il nous a expliqué son histoire à BLVD. Ça va être disponible, là. Pardonnez-moi, là, je fais plusieurs choses cette semaine, donc je mets tout disponible autant le matin que l'après-midi à 14h sur notre site. Ceci dit, il y a des bonnes nouvelles dans son cas.
OK.
La première, Radio-Canada a écouté notre entrevue de ce matin. Ils ont dit, M. Favant, il n'est pas question qu'on laisse ça en pause. On fait un reportage avec vous. Ça va être diffusé à 18h ce soir.
Heure de grande écoute.
Heure de grande écoute au téléjournal de Radio-Canada. Moi, ce matin, j'avais dit à Laurent Favant, je vais envoyer votre entrevue au bureau de Joël Lightbound, qui est le leader québécois pour le Parti libéral du Canada. Ça tombe bien, son directeur nous écoutait. Donc, après notre émission, il m'a appelé et il m'a dit, Jean-François, envoie-moi les coordonnées de M. Favant, je vais m'en occuper personnellement.
On va régler la situation.
Exactement. Avant de rentrer en onde, M. Favent n'avait pas encore reçu le dit téléphone. Radio-Canada faisait des démarches aussi auprès du bureau de Joel Lightbound. Mais sachez que oui, l'impression que d'ici 48 heures, devrait travailler.
Puis avec raison, je
ben
veux
oui.
dire. Non, mais c'est là qu'on se rend compte à quel point notre... Puis là, je vais te dire, là, c'est une bonne nouvelle, le dossier va probablement débloquer. Mais c'est là qu'on voit à quel point notre machine est incapable de fonctionner de manière intelligente.
Mais t'as exactement raison, j'avais en tête, notre machine n'est pas capable de réfléchir.
Ça n'a pas d'allure, aucune réflexion. On a un cas d'un père qui va enterrer sa fille, il revient ici. Ah, ben là, je regarde ce qu'on a écrit dans nos règlements, ce qui est écrit sur papier, ce qu'on a mis en place. Monsieur, c'est impossible pour vous de travailler.
Non,
mais j'avais une exception. Ouais, mais non, on n'est pas capable de réfléchir.
Du tout.
Encore une fois, dans ce cas-ci, l'homme qui fait ses demandes, l'homme qui fait ses démarches par lui-même n'a pas été suffisant. Il a fallu que ça sorte encore une fois dans les médias pour que le gouvernement agisse.
C'est ça qui n'a pas d'allure. Puis au nombre d'employés qu'on a au niveau du gouvernement fédéral, puis c'est la même chose pour le gouvernement provincial, soit dit en passant, puis pour la ville, nos différentes municipalités. Au nombre d'employés qu'il y a, est-ce qu'on peut leur apprendre, s'il vous plaît, à avoir du jugement? Oui, il y a une règle qui existe. C'est normal, il faut qu'il y ait des règles dans la vie. Tout à fait d'accord avec ça. Mais là, dans ce cas-ci, le monsieur n'a plus son permis parce que le gouvernement s'est traîné sa vatte, les deux paliers de gouvernement ensemble pendant 9 mois. Puis il s'en va enterrer sa fille. On peut-tu être bienveillant et humain, s'il vous plaît? On peut-tu être une machine qui réfléchit, une machine intelligente, comme tu dis?
Ben, on peut-tu respecter nos valeurs canadiennes?
Ben, c'est ça! Moi, ça m'a sidéré, ce dossier-là, ce matin, parce que je me disais, voyons, ça n'a pas d'allure. Comment ça, crime, on a un fonctionnaire qui n'est pas capable de réfléchir. Comment ça, on a un boss de ce fonctionnaire-là qui n'est pas capable de réfléchir? Puis si on veut diminuer la fonction publique, c'est parce qu'il va falloir à un moment donné que ces gens-là prennent des décisions. Parce que sinon, on a juste des pantins qui écrivent sur leur clavier « non admissible ».
Ça finit là. Pas d'exception possible.
Exactement.
Moi, ce que j'aurais voulu dans ce dossier-là, c'est pas que ça... Tu sais, c'est bien correct.
Ouais,
ça fait partie de notre travail. Là.
Et je suis super content, puis je tente de le faire quand même assez régulièrement en tant qu'animateur à Boulevard, d'aller chercher ces histoires humaines-là, puis de les transférer aux politiques pour que ça bouge, parce que je crois qu'on est meilleur en tant que société que ce que notre machine nous démontre.
À 100%. Mais ce que j'aurais aimé, c'est que ce soit un fonctionnaire ou un travailleur qui dise « Hey, vous avez raison. Visiblement, dans la réglementation, il y a une faille. C'est pas possible pour moi. Je vais faire tout mon possible pour pousser le dossier suffisamment haut dans l'échelle pour qu'on puisse trouver une solution pour vous, M. Favent. Pour qu'on puisse travailler pour vous. Pour qu'on puisse trouver le moyen de vous refaire travailler.
Faudrait pas que M. Favent se retrouve dans les médias. On a une auditeur qui nous écrit l'évangile de la procédure. En effet, on forme nos fonctionnaires puis on les désapprend à réfléchir. Tu sais, c'est mal dit, là, mais tu comprends ce que je veux dire.
Ouais.
Ils n'ont plus le droit de réfléchir. La procédure, c'est ça, fais la procédure. Non! Il y a des cas d'exception, il y a du jugement à avoir. Puis tu sais, quand je dis, il faut qu'il y ait des règles, puis des cas d'exception, je vais te nommer un exemple que j'ai en tête. Personne n'a le droit de passer sur un feu rouge. OK? Ma blonde, le bébé est en train de sortir entre les jambes et dans mon char, je vais passer sur le feu rouge.
Non,
si le policier m'arrête, je vais dire « Hey man, check, je vois la tête. » Mais le policier ne me donnera pas le constat d'infraction. Il va mettre les flashers et il va dire « Viens-t'en, on s'en va à l'hôpital. »
Mais ça dépend. Le policier, c'est-tu un vrai policier ou c'est un fonctionnaire du gouvernement?
Parce que sinon, il va te répondre. Si c'est un fonctionnaire du gouvernement, il va faire mon constat. Il va dire « Vos papiers, puis ma blonde va accoucher dans le char. »
Monsieur Fortin, je comprends votre situation, mais vous comprenez, les règles sont mises en place. Il n'y a pas d'exception à la règle.
Ouais.
C'est ça qu'on te répondrait.
Exactement. Hey, c'est un bon point que Jonathan amène par texto, puis merci, continue de nous texto 418-971-1021. Puis il fait le parallèle avec l'intelligence artificielle. Si on voulait des employés qui n'ont pas le droit de réfléchir, tant qu'à ça, on va utiliser des robots, des ordinateurs. Ça revient au même, on veut des humains qui réagissent comme des humains. Puis en effet, tu sais, dans le service à la clientèle, à un moment donné, parce que c'est un service à la clientèle, ben c'est un humain qui prend la décision, qui dit « OK, ça bouge ». voici ce que j'ai à faire dans ce cas-ci.
Et c'est un bon point aussi, parce que quand on appelle au gouvernement, là, des fois, on a comme... On tombe sur le robot, puis on est comme, « Ah non, je veux parler à quelqu'un. » Puis des fois, tu finis par te fâcher parce que tu veux parler à quelqu'un. Mais une fois que tu parles à quelqu'un, t'as-tu l'impression souvent que cette personne-là t'a mieux servi que le robot
ben
avant?
Ben non, c'est ça le mot du problème.
On se fâche pour avoir un humain, oui. Finalement, on arrive, puis on n'a pas plus de service une fois qu'on a un humain, parce que c'est un fonctionnaire. Mais monsieur, la procédure dans votre cas ne fonctionne pas. Okay. Veuillez rappeler à tel numéro, c'est on va ça. Vous mettre en attente pour un autre 80 minutes.
Ouais, exactement. Il y a une problématique aussi de trop d'immigration. Un employé, justement, de service d'immigration qui nous écrit pour dire hey, « Écoutez, il y a trop de dossiers à traiter. » Fait qu'à un moment donné, des fois, l'humain, il arrête de réfléchir devant, justement, l'ampleur du dossier. Ça, je suis entièrement d'accord. Tu sais, peut-être bien que le fonctionnaire est arrivé. « OK, ça ne fonctionne pas. Signe ça, passe exact. À l'autre. » Ça se peut, ça aussi. En effet, c'est une problématique. Puis ça, bien, l'immigration massive, c'est une problématique de l'ère Justin Trudeau. On va se payer à la traite sur Justin tantôt à 1 heure avec Gabriel Giguère. Là. Il nous a préparé un bon bilan. Il nous a préparé un bon bilan de Justin Trudeau. T'es l'homme là, qui est rendu dans une vidéo de Katy Perry puis qui crème la poitrine en public. Là. Il me semble que ça aurait bien fait s'il n'avait pas dirigé le pays pendant 10 ans.
Ah, tu penses?
Ouais, mais...
Je pense que t'es pas tout seul à penser ça.
Il me semble que s'il avait eu sa vie de rockstar déjà, v'là 10 ans, ça aurait bien fait.
Il me semble qu'il aurait été plus heureux, puis qu'on aurait été plus heureux.
Oui, parce qu'il a l'air plus heureux. Non, il a l'air épanoui. Moi, je veux que les gens s'épanouissent. Justin s'épanouit auprès de Cathy. Le problème, c'est que ça y a pris 10 ans comme premier ministre avant de devenir... ce qu'il voulait être, c'est ce qui me dérange un peu. Marie-Ève qui écrit « Mon Jimmy, plus empathique que ben du monde sur la terre. » En effet, ça, c'est un autre problème, Marie-Ève. Mais c'est ça, donc des bonnes nouvelles dans ce dossier-là. Normalement, le bureau de Joël Lightbound devrait communiquer dans les prochains 24 heures avec M. Favent. J'ai très bon espoir que d'ici 48 heures, M. Favent va me réécrire pour me dire « C'est beau, c'est réglé, check ça, ils vont m'envoyer un selfie, je suis à ma job, c'est fait. »
Je suis pas inquiet aussi. Là.
Moi, je suis pas inquiet. À un moment donné, les politiciens ont quand même une capacité de réfléchir. Puis honnêtement, Joël Lightbound, je trouve que c'est un politicien qui est très terre-à-terre. Donc, je pense bien que ça va fonctionner. L'entrevue va être disponible à 14 heures sur notre site web au blvd.fm. Puis, si jamais vous voulez également encourager M. Favent, bien, il sera au téléjournal 18h, heure de grande écoute de Québec. Donc, un immigrant français qui coche toutes les cases, emploi spécialisé, parle français, on n'a pas besoin de le franciser, qui se voyait refuser le droit de travailler parce qu'il est allé enterrer sa fille en France. Quel manque d'humanisme. Bien, on va avoir réglé ça à Boulevard 102 aujourd'hui. C'est une très bonne affaire. Pierre-Luc écrit « Justin lui crème la poitrine en public. » Ouais, en public sur un yacht privé à 200 mètres au large. C'est le paparazzi, le problème. Ouais, t'as raison, Pierre-Luc. J'ai un billet négatif.
Ouais, c'est ça. Ben,
Justin Trudeau.
Puis on est tous d'accord avec Pierre-Luc. Là, je pense que tu voulais juste lancer une petite flèche avec.
C'est ça.
Envers Justin.
Un autre auditeur auditrice nous écrit tel père, tel fils. Ça, c'est vrai. Ils ont toujours rêvé d'être des rockstars, les deux. Puis un peu malheureusement, pour le Québec, ils ont fait de la politique. Là. Quoique Pierre-Éliott Trudeau, faut que je lui donne. Puis d'ailleurs, je vais en glisser un mot tout à l'heure. Ça va être la première fête de la fierté. Pour ce qui est de Lévis, ça a été annoncé hier. J'ai vu ça passer sur mon fil Facebook. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis je veux vous raconter l'histoire de l'organisateur, justement, de la première fête de la fierté de Lévis. Je ne nommerai pas parce qu'il m'a demandé de demeurer dans l'anonymat, mais je connais son histoire. Puis je vais vous dire une affaire. C'est à glacer le sang ce qu'il a vécu. Donc, faut que je donne à Pierre-Éliott Trudeau le fait qu'il a enlevé la politique des chambres à coucher. Là. Ça, c'est un avancé majeur en termes de société. Sinon, Mathias, qu'est-ce qu'on surveille dans l'actualité, mis à part le dossier de Laurent Favent?
Oui, ben je commence avec une nouvelle qui vient de tomber. Michel Leblanc, qui est l'ancien PDG de la Chambre de commerce de Montréal, qui va se présenter pour le Parti libéral du Québec. C'est ce que Radio-Canada vient d'apprendre, selon ce qu'on nous dit, ça va être la circonscription de Marguerite Bourgeois dans le secteur de Montréal. Je vais regarder rapidement les projections QC125, là, mais selon moi, ça doit être un château fort libéral. Oui, oui, les projections qui donnent les libéraux à 69 % le PQ à 11 %. Donc, normalement, Michel Leblanc devrait rentrer assez facilement pour le Parti libéral du Québec. Mm-hmm. J'en profite pour annoncer que Marcos Archambault va se présenter pour le Parti conservateur du Québec dans Louis-Hébert pour les prochaines élections. Lui qui avait porté les couleurs du Parti québécois pour les élections de 2012 et 2014, c'est un notaire qui est reconnu pour son expertise en gouvernance des affaires publiques. Le tout a été annoncé ce matin.
Donc, merci beaucoup, Mathias. Hey, autre suivi de dossier de ce matin, tiens, puis ça vient d'arriver par Messenger, c'est Audrey Perrault à qui on a parlé. Mère de famille, partie avec son chum en voyage au Mexique, petit voyage d'amoureux. Les enfants de chaque bord sont chez la mère et le père, là, les ex-conjoints ici à Québec. Censé revenir le 2 août, la grève de WestJet. Se trouve une alternative pour revenir avec Air Canada ou Air Transat, revenir plus rapidement, autrement dit, au pays, arriver dans des dates qui concordent, qui sont près du 2 août. Mais c'est des billets d'avion qui sont très chers, hein, parce que malheureusement, Air Canada et Air Transat profitent de la misère du monde. Là. Ça, c'est les compagnies d'aviation. Hein. Et ça fait en sorte que WestJet, finalement, leur propose un vol avec deux escales en passant par Calgary qui va durer 24 heures pour qu'ils reviennent dans la nuit du 6 au 7 août.
Ah, eh bien.
C'est bon, hein?
Ça a été...
C'est censé être le 2
ça
août.
Ça s'est réglé.
Exactement. Et là, pendant ce temps-là, bien, Audrey puis son chum, à chaque jour, doivent sortir de leur chambre d'hôtel au Mexique, s'en aller dans le lobby avec tout le monde qui sont dans la même situation, refaire la file puis requêter leur chambre d'hôtel.
Pour voir s'ils peuvent rester.
Exactement. Tu sais, WestJet n'a pas pris ça en charge. Je peux pas dire, clients, gardez-les dans les chambres jusqu'à temps qu'il y ait leur billet. Non, il faut qu'ils fassent la procédure.
On leur a dit, hey, dans 4 jours, là, 4 jours plus tard, tu vas avoir un vol. C'est correct.
Exactement.
On va te ramener.
Ouais, puis quand Audrey leur écrit à WestJet pour leur dire « Hey, écoutez, moi, j'ai une meilleure alternative. Je vais arriver plus tôt. Mon chum est en construction. Il est en train de perdre du salaire. Moi aussi, j'avais plus de vacances. Je suis en train de perdre du salaire. » Ben, WestJet répond « C'est l'alternative du 6 août. »
Ah, ben voyons donc.
Ça va bien.
Est-ce qu'on paye la chambre d'hôtel?
Oui, on paye la chambre d'hôtel au moins, mais quand même, t'es perte de salaire.
C'est ça.
Là, évidemment, ben, tu sais, je veux dire... L'ex-conjoint, peut-être qu'il y a d'autres tombés en vacances puis ils partaient aussi en quelque part. Là, t'sais, je veux dire, c'est... ils travaillent, ils ont
fait des choses. On perd du salaire, ça met des situations, ça crée des situations compliquées. Puis la compagnie, eux, même s'il y a une autre alternative, là, c'est non, tu vas prendre l'avion du 6 août puis arrête de m'en parler.
Exactement. Ouais. Et là, Audrey vient de m'envoyer un suivi. Parce que ce matin, lorsqu'on lui a parlé, puis je vais mettre l'entrevue disponible sur blvd.fm tout à l'heure, lorsqu'on lui a parlé, elle disait « Hey, j'ai peut-être... je vais peut-être réussir à partir avant le 6. » Parce qu'elle dit « Là, WestJet a remis en place le clavardage. » Fait qu'elle disait « Je suis la 55e » parce que, tu sais, ces compagnies-là, ils ont bien fait, hein? Ils ont fermé les lignes téléphoniques, ils ont fermé le clavardage, puis ils ont mis personne au comptoir.
Ah, ils voulaient pas en entendre parler, hein?
Exactement. Fait que dites-vous que les robots, Joe, Marie-Ève, là, les robots auraient fait une meilleure job, OK? Là, ils ont réouvert le clavardage. Fait qu'elle nous expliquait, elle dit « Je suis 55e dans le fil d'attente, on me dit que j'ai 4 heures à attendre. » Alors, on est rendu 4 heures plus tard, on l'a interviewé vers 8h15 ce matin. Et là, clavardé avec WestJet. Alors, elle leur a dit, j'ai une meilleure piste de solution, tout ça, voici les coûts, etc., etc. Et sais-tu ce qu'on lui a répondu? Je constate que vous n'êtes pas titulaire d'une carte Mastercard WestJet RBC. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, veuillez consulter la page carte de crédit WestJet RBC.
Non.
Site officiel de WestJet.
Non.
Donc, dans le fond... On la dessert mal depuis le 2 août, mais on dit « Ouais, c'est parce que c'est pas membre privilège. »
Ah, oh. Je pensais que t'allais me donner des nouvelles positives, Jeff, là.
Non.
Je pensais pas que t'allais me faire encore plus perdre foi en les compagnies aériennes.
Non, elle est pas membre privilège.
Va te chercher une carte de crédit membre privilège WestJet avec Mastercard, puis on va peut-être te donner du service.
Peut-être!
Ça veut pas dire...
qu'on va décider de payer tes billets d'Air Canada.
Ça veut pas dire, mais au moins, on va te répondre.
Ouais. Y ont-tu le contrôle, ces compagnies-là, sur nous autres?
Hey, c'est-tu ridicule? Hey, faut-tu manquer d'humanité?
Ouais.
Excusez, pas de vrai. Là.
Non, non, c'est ça.
Quelqu'un est pris à l'étranger en raison de ta compagnie. Faites confiance à ton compagnie. Ouais. Pris à l'étranger. Essaye d'avoir de l'aide et du service depuis des jours et des jours. Ta réponse, c'est... pas je vais te donner du service.
Non.
Je vais daigner te répondre si tu me prends une petite carte de crédit membre privilège.
Exactement. Puis on est foutu, on est attaché par ces compagnies-là.
C'est inhumain, Jeff.
Parce que Air Transat, Air Canada, WestJet, nomme la compagnie que tu veux, ils agissent tous pareil. On est pris avec eux autres si on veut voyager.
C'est...
ah, c'est, ça fait aucun sens.
J'en parle les mots.
Ben, c'est là, l'entrevue est disponible avec Marc Rangé hier matin, où Marc Rangé disait, écoutez, on n'aura pas le choix, ça va prendre des interventions gouvernementales strictes avec des règles pour que ces gens-là, à un moment donné, se mettent à donner service à la clientèle sur le sens du
monde. Je suis pour un libre marché, je suis pour laisser l'économie rouler, des compagnies faire leurs affaires, mais quand tu as des compagnies de même, que le bien-être d'un être humain en dépend, là, c'est
ben
ça
oui.
qu'on parle, là. On parle de quelqu'un qui est pris hors de chez lui.
Une semaine sans salaire pour les deux.
Puis que t'es pris à l'autre bout du monde.
Oui.
Là. T'es même pas proche d'être chez vous. De donner du service pitoyable de même, ça me dégueule, ça me répugne.
Exactement. Mathieu qui écrit, ça prend la même affaire que la charte européenne pour vous protéger. Ah, je vais aller lire là-dessus, Mathieu, puis je vais mettre un petit peu plus de détails. Texte nous au 418-971-1021. En effet, ça prend une charte pour nous protéger de ces compagnies-là qui abusent carrément de nous.
Ouais,
parce que là, on parle de WestJet, puis tu... C'est sûrement une des pires réponses que j'ai vues de ma vie en service à la clientèle. Mais Air Transat, Air Canada, quand ils ont eu leur conflit de travail,
c'est
la même affaire.
Non,
ils vident
ça,
les
là.
Bureaux aussi, ils ne veulent pas répondre à personne. T'sais, Air Canada, je pense qu'il était rendu à une affaire comme quoi 10 000 ou 11 000 plaintes pas réglées qui sont hors délai. Ça n'a pas de sens.
Et puis, tu sais, je veux pas dédramatiser, mais on parle pas de quelqu'un qui a un cellulaire qui fonctionne plus ou une bébelle à la maison qui marche plus.
Non, non,
on parle de quelqu'un qui veut rentrer chez soi.
Non, oui, exactement. Quelqu'un qui est en vacances, mais qui était en vacances, qui est censé avoir terminé ses vacances, qui est censé être au travail. Fait qu'on parle d'un couple qui perd une semaine de salaire. Tu sais, hier, j'ai avez-vous un coussin de 6 000 piastres parce que ma transmission de minivan a sauté? J'ai dit, moi, je l'avais pas, ce coussin-là. Ben, tu sais, je veux dire... faire une semaine de salaire, là, toi et ta blonde. Là, vous avez l'appart, vous avez les deux chars, vous avez...
Mais on l'a dit, 50% du monde vivent à 200 $ près.
Ça.
Tu perds deux semaines de salaire, c'est terminé. Là.
Exactement. On conclut avec Fred qui dit « WestJet comme le ministère de l'immigration, c'est-à-dire en se crissant du monde. » En plein ça, malheureusement. Alors, c'est deux suivis d'entrevues de ce matin. Tout ça va se retrouver sur le blvd.fm. Une bonne nouvelle! J'ai l'impression que dans 48 heures, Laurent Favant, ça va être réglé. Une mauvaise nouvelle, ben Audrey, elle va être au Mexique. Au moins, il faisait beau au Mexique, mais ça va coûter cher sa semaine additionnelle au Mexique. Puis elle va se taper un 24 heures de vol pour un 4 heures, normalement. C'est-tu pas beau, hein? Ça, c'est du service à la clientèle. On fait une courte pause à Boulevard 102.1 à l'émission On en jase. Merci d'être à l'écoute. Et par la suite, bien, on s'assoit tout simplement avec le nouveau candidat du Parti conservateur du Québec dans Louis Hébert, Marco Archambault. C'est un ancien péquiste qui est rendu au Parti conservateur. Il a travaillé pour Simon-Jolin Barrette à la CAQ. Qu'est-ce qui l'a amené vers le PCQ? On en jase dans quelques instants. Émission en jazz sur Boulevard 101, il est midi 33 minutes. Si vous le saviez pas, ben je vous le dis, la bonne nouvelle du jour. 3 jours de ciel bleu ensoleillé. 26 degrés pour aujourd'hui, 28 pour mercredi et 30 pour jeudi. Let's go, guys, on profite de l'été. Elle est loin d'être terminée. Mathias amène, par contre, avec ses gens en vacances, ce beau temps. Les gens veulent sortir de la maison. Et ça amène de la circulation.
Oui, Henri IV, direction nord à hauteur de boulevard Champlain. Donc, en sortant du pont Pierre-Laporte, il y a présentement un accident dans le secteur de la voie du centre qui est bloqué, ce qui crée un ralentissement sur le pont Pierre-Laporte en direction nord au cours des dernières minutes. Puis ça s'accentue de minute en minute là, pour l'instant. Ça remonte surtout sur la 73, mais selon moi, non pas long, ça va remonter jusqu'aux chutes de la Chaudière. Également, 20 direction ouest entre Taniata, président Kennedy, c'est au ralenti. Guillaume Couture, direction ouest à hauteur de chemin du fleuve en raison de travaux dans le secteur. C'est du pare-choc à pare-choc également. Et Henri IV, direction sud, un petit quelque chose à hauteur de Charret. Pour l'instant, il y a quoi que ce soit d'autre? 418-971-1021, c'est par texto.
Mathias, tu te souviens de l'avocat spécialisé en immigration qui est quand même assez régulièrement à boulevard 101, Maxime Lapointe?
Oui.
Bon, ben, il est sur le dossier de Laurent Favant. Okay. On a une auditrice qui travaille pour lui.
Parfait. Ça.
Il va donner une entrevue à Radio-Canada.
Bonne nouvelle, ça.
On va débloquer.
Ça va débloquer au cours des prochaines heures.
Jeudi, on se parle, Mathias, puis on dit Laurent Favant est de retour au travail. Puis le Canada fait preuve d'humanisme. Ça va faire énormément de bien. En attendant, le candidat pour le Parti conservateur dans Louis Hébert, Marco Archambault, qui est en route présentement pour les studios de Boulevard 101, qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité?
Une collision majeure a eu lieu ce matin vers 7h45 sur l'autoroute 20 entre Mont-Joli et Saint-Luce. C'est un camion semi-remorque et une voiture qui se sont heurtés, ce qui a mené à la mort d'un homme de 78 ans, lui qui conduisait la voiture. On n'a pas nécessairement tous les détails pour l'instant concernant les circonstances de l'événement. Ça avait mené à la fermeture complète de l'autoroute 20 dans les deux directions entre Mont-Joli et Saint-Luce. C'est pour l'instant réglé sur les routes. Un incendie d'origine suspecte qui a eu lieu dans le secteur de l'Apocatière, dans une station-service au cours de la nuit, de cette nuit. En fait, c'est un SO sur la route 132 qui a été touché vers 1h30 du matin. Heureusement, personne n'a été blessé, mais certains éléments sur les lieux qui laissent croire que l'origine de l'incendie pourrait être de nature suspecte, de nature criminelle par le fait même. Pour l'instant, aucun suspect n'a été arrêté dans cette affaire. Une enquête qui a été ouverte. Le transporteur régional Air Liaison qui pourra continuer à participer au programme de billets au rabais du gouvernement du Québec et ce, malgré une enquête de l'unité permanente anticorruption de l'UPAC. Ce qu'on nous indique, c'est dans une décision rendue par la Cour supérieure, on a comme renversé la décision qu'on avait prise. Ce fameux programme qui permet aux voyageurs d'acheter des billets avec des rabais de 50 à 85 % qui avait été retiré d'Air Liaison parce qu'il y a une enquête en cours. Finalement, on dit pour l'instant, on redonne la possibilité à Air Liaison d'utiliser ce programme-là jusqu'à temps qu'on aille des résultats de l'enquête.
Marco Archambault, candidat pour le Parti conservateur dans Louis Hébert, est avec nous en studio. Il est dans une tournée d'entrevues. C'est tout à fait normal. Il a été candidat pour le PQ à l'époque en 2012 et 2014. Monsieur Archambault, merci beaucoup de votre présence dans les studios de Boulevard 101.
Bonjour, Monsieur Fortin.
Bonjour. Oui, juste vous approcher du micro un peu, puis ça va
Bonjour,
être parfait.
Bonjour, M. Fortin.
Yes! Qu'est-ce qui vous amène au PCQ, vous qui avez été péquiste, vous qui avez travaillé avec Simon-Jolin Barrette à la CAQ? Pourquoi ce changement de cap?
Ben, c'est parce que les Québécois ont soif de changement. J'ai toujours été quelqu'un de très lucide et de pragmatique dans mon approche en politique. Et les Québécois ont essayé la CAQ en 2018. J'en suis un, là. Puis la CAQ n'a pas livré la marchandise. Puis on le constate avec les Northvolt, Lyon Électrique, ça clique, là, un site web qui coûte plus d'un milliard de dollars.
Ouais, j'avoue que ça, c'est du jamais vu.
C'est du jamais vu.
Un site web transactionnel, surtout.
Ben c'est ça. Puis on réussit même pas à payer nos plaques là-dessus. Là. Il faut, faut encore envoyer un chèque, un spécimen de chèque par la poste là, si on veut se faire les prélèvements automatiques à la SAAC. Donc, les enjeux sont grands. Puis ça prend une équipe avec une approche qui est lucide, qui est courageuse pour revoir le modèle de société qu'on a aujourd'hui. C'est un modèle qui est désuet et brisé, et c'est ce même modèle que défendent le Parti québécois, la CAQ de Christine Fréchette, de même que le Parti libéral.
Qu'est-ce que vous voyez de différent dans l'offre du PCQ par rapport au PQ, votre ancienne formation politique?
Bien, le PQ a évolué beaucoup au cours des dernières années. Là. Le dernier chef politique du PQ a rassemblé les forces souverainistes des deux côtés de l'échiquier politique. Là, c'était Pierre-Carl Péladeau. Mm-hmm. Puis c'était il y a 10 ans maintenant.
Ouais, vous avez travaillé d'ailleurs avec M. Pelladeau?
J'ai travaillé comme étudiant dans le centre de recherche, donc pour alors que M. Pelladeau il était chef du Parti québécois. Et puis le PQ, comme je disais, a beaucoup évolué. Puis on constate que le noyau se trouve très, très, très à gauche au Parti québécois. Puis quand moi, je les ai rencontrés, parce que je les ai rencontrés ce printemps, et je leur ai parlé du souci de revoir là, les questions d'efficacité de l'État, avec le même constat que font la grande majorité des Québécois, puis j'ai frappé un cul-de-sac.
Pour la circonscription de Louis Hébert, qu'est-ce que vous voulez faire de plus précisément dans cette circonscription-là que ce qui a été fait au cours des dernières années?
Bien, c'est une circonscription importante dans Québec, là, à Québec. Puis les gens de la capitale nationale ont toujours été les précurseurs d'un mouvement politique. Ça a été le cas dans Louis Hébert en 2017 avec la partielle où Mme Guilbeault avait été élue dans Louis Hébert. Donc, c'est un peu comme les trendsetters de la région de Québec.
Oui, il y a eu Louis Hébert en 2017, puis à l'époque, il y a eu Vanier avec Sylvain Lévesque qui avait été... pas Sylvain Lévesque, voyons.
Dans Chauveau.
Dans Chauveau, oui. Oui, Sylvain Lévesque était dans Chauveau, mais dans Vanier, dans le temps, Sylvain Légaré qui avait été élu pour l'ADQ.
Exact.
Ouais.
Donc c'est un terreau fertile à nos idées de vouloir un État qui est plus efficace, qui répond mieux aux besoins des citoyens. Puis c'est le message que je vais marteler au cours des prochaines semaines, parce que les gens, ils ont aucun intérêt pour un livre bleu, puis ils ont aucun intérêt pour un référendum qui va ramener le Québec dans les années 70. Puis t'as un autre parti qui veut continuer à jouer au casino avec votre argent. Donc, les gens ont soif d'un changement. Ils arrivent au buffet, puis depuis des décennies, on leur sert du réchauffé.
Ouais, plus spécifiquement, pour la circonscription de Louis Hébert, un ou deux besoins principaux que vous voyez?
C'est surtout chez nos entrepreneurs dans Louis Hébert, à Saint-Augustin et dans Cap-Rouge. Il y a des entrepreneurs, il y a de la construction de logements qui se fait, puis on voit que ça coûte de plus en plus cher. Puis ça prend des vraies solutions là, pour répondre à ces besoins-là. Les gens, ils n'arrivent pas à rénover leur maison parce que les coûts pour refaire la salle de bain sont passés de 20 000 à 40 000. Donc, ça passe beaucoup par l'énergie. C'est une de nos préoccupations au Parti conservateur du Québec. On veut abolir la taxe carbone, une taxe que il y a un an, là, le gouvernement de la CAQ ne reconnaissait pas. Là. Mm-hmm. Donc, même eux, ils ont pu faire du chemin avec nos propositions. Donc, je vais continuer d'aller sur le terrain pour écouter les gens et de porter leurs préoccupations.
Qu'est-ce que vous allez faire au Parti conservateur pour que le modèle fonctionne mieux, mais à l'intérieur du Canada?
Le modèle à l'intérieur du Canada, je pense qu'avec le livre de M. Duhem, il y a des bonnes pistes pour renforcer nos alliances avec les autres provinces, puis avec nos alliés à travers le Canada. Donc, il n'y a rien de mauvais, hein? Il n'y a rien de mauvais avec la prospérité, là. La prospérité, là, c'est pas mauvais parce que ça nous permet d'acheter une solidarité qui caractérise la société québécoise. Si on veut offrir des services publics de qualité, bien, il faut d'abord enrichir la société québécoise et permettre à nos entreprises de réussir.
On est complètement en adhésion là-dessus. Moi, je pense qu'il faut développer encore plus de façon économique pour protéger notre filet social. Donc ça, là-dessus, on est en adhésion complète. Qu'est-ce qui vous a fait débarquer de la CAQ sur la gestion de la COVID?
Bien, la gestion de la COVID a été un moment marquant, je vous dirais, dans la gestion du gouvernement de la CAQ. Je pense que François Legault, il y avait un objectif louable auquel beaucoup de Québécois se sont ralliés là, en 2018, de réduire le fardeau fiscal, de remettre plus d'argent dans le portefeuille des gens. Et malheureusement, ils ont livré soit des projets ratés ou des promesses vides. Donc, c'est un peu la période de la COVID a été marquante parce que l'expertise au sein de l'appareil gouvernemental là, a été reconnue de justice avec Daniel McCann, puis Christian Dubé.
Ouais.
Donc, ça a été vraiment l'expertise qui avait été reconnue à ce moment-là de la machine, je peux dire, bureaucratique ou de fonctionnaire, mais c'est un phénomène qui s'est reproduit dans l'ensemble des ministères et organismes où la CAQ s'est mise à céder devant une machine puissante de bureaucrates. Puis on le voit avec Consignation, là, qui crée beaucoup de problèmes. Les gens, il faut qu'ils se déplacent des kilomètres pour se faire rembourser, là, à coups de dizaines la canette, puis la CAQ a quand même doublé cette consigne-là. Donc là, ça vous donne un exemple.
Concret. Ouais, parfait. Concret. Je terminerai l'entrevue justement là-dessus parce que je sais que vous êtes dans une série d'entrevues. C'est une question d'un auditeur, une auditrice qui nous dit « OK, le PCQ propose du changement, mais c'est quoi les solutions concrètes? » Nommez-moi une ou deux solutions concrètes que le PCQ va faire pour justement revirer cette province de bord-là.
Bien, c'est surtout la réduction de la paperasse. Puis bientôt, on va lancer une consultation à un site web, fini la paperasse. Puis les gens vont pouvoir donner des exemples concrets dans leur vie parce qu'on veut être à l'écoute des gens. Contrairement à d'autres partis, on ne prétend pas avoir toutes les réponses. Donc, on veut écouter les gens, entendre leurs préoccupations et s'attaquer à faire un examen minutieux de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas.
Marco Archambault, vous êtes le candidat du PCQ dans Louis-Hébert. Je vous souhaite une excellente campagne électorale. Actuellement, sur Québec 125, vous êtes quatrième, mais c'est serré à 17 %. Le PQ est premier à 28. Alors, je vous souhaite une bonne campagne électorale.
On va continuer de travailler fort. Merci, M. Fortin.
Merci. Merci de vous être présenté en studio. C'est super apprécié. Donc, Marco Archambault, c'est le deuxième candidat présenté dans Louis-Hébert. On avait reçu avant mes vacances Chloé Fauchon de la formation du Parti québécois, du côté du Parti libéral. Mais c'est le coup dur qu'on a vécu avec ça. René Verrette qui
c'est ça que j'allais
retiré.
Dire. C'est le troisième candidat annoncé, mais c'est le deuxième qui va être là aux prochaines élections.
Exactement. Donc, c'est un coup dur qui est justement que du côté du Parti libéral et du côté de la CAQ, ça se fait toujours attendre du côté d'une candidature pour Louis Hébert. Et malgré que ça se fasse attendre, quand on regarde sur Québec 125, la CAQ est deuxième présentement à 25%.
Puis ils ont remonté beaucoup vraiment dans Louis Hébert. Puis, veut pas, j'ai l'impression que ça démontre une certaine tendance que la CAQ reprend un peu du poids de la bête dans Québec, Québec, dans la région de Québec.
Je vais dire une affaire. Si j'avais été PSPP puis Charles Milliard, j'aurais commencé tout de suite cette semaine. Parce que Christine Fréchette a pris le plancher depuis le début juillet. Et là, c'est juste le nom de Christine Fréchette qui résonne dans la sphère publique. Puis on commence à oublier ce que le PQ propose. On commence à oublier ce que les libéraux proposent. Puis quand j'écoute des candidats libéraux, j'entends juste la peur du référendum. Tu gagneras pas à Québec en parlant de peur du référendum.
Tu dis, je commencerai cette semaine. Il aurait fallu que ça commence depuis un mois.
Ah oui!
Pas Saint-Pierre puis Plamondon est en congé depuis plusieurs semaines maintenant. Il est complètement invisible de l'espace médiatique. On a eu Charles Milliard en entrevue la semaine dernière,
ouais, c'est
qui
vrai.
Est comme réapparu dans les médias.
Oui, il a dit « je suis là », mais il n'a pas dit « je suis prêt ».
Ben,
pour reprendre, je me souviens plus quelle personne avait écrit une chronique là-dessus.
Ce qu'il nous a dit, c'est il a pris une semaine de congé dans son été, mais il nous a dit « je fais surtout du terrain ». C'est pour ça qu'on ne me voit pas nécessairement. Mais c'est parce que... Oui, c'est important de faire du terrain, mais pour une élection provinciale, c'est pas comme une élection municipale ou une partielle. Faire du terrain, c'est primordial. Mais t'as pas le choix de prendre l'espace médiatique aussi pour te faire connaître.
Ben, exactement.
Puis ça fait des semaines que la seule personne qu'on voit, ou du moins de manière positive dans l'espace médiatique, c'est la CAQ et Christine Fréchette.
Christine Fréchette, puis là, les autres partis ont bien beau sortir pour dire « Ah, elle essaye d'acheter des votes, elle essaye ci, elle essaye ça. » Elle fait des annonces positives, puis ça, ça va percoler dans l'opinion publique. Alors, il va falloir vraiment que les chefs des autres partis se mettent au travail. Vous avez été plusieurs à réagir à l'entrevue de Marco Archambault, 418-971-1021. Puis, écoute... j'en lis un en particulier que je trouve qui résume bien le ressenti que j'ai eu de cette entrevue-là. Tu me diras si toi, tu as eu le même ressenti. Les gens ont soif de changement politique, la machine. Un parti ou l'autre, c'est la même fin nauséabonde. Et là, on rajoute un petit hostie. Mais c'est ça, il m'a pas convaincu, Marco Archambault. Je trouvais qu'il parlait en cassette électorale.
Ouais, puis là, mon point, là, je me demande si c'est ces gens-là qui sont attirés vers la politique ou c'est les partis qui recherchent ça. Moi, je trouve tout le temps que les partis ont une capacité exceptionnelle à aller chercher des candidats. Puis là, je comprends qu'il a fait deux élections, là, mais quand même, il a pas été député. Là.
Non,
aller
c'est
chercher
ça.
Des candidats qui ont jamais été en politique. Puis les former comme politiciens aussi rapidement pour qu'ils fassent juste déblatérer
t'as
une
raison.
Cassette.
Non, t'as entièrement raison.
Ça fait beaucoup de candidats qu'on a eu.
Oui.
Beaucoup de candidats qu'on a eu qui font juste répéter des lignes de parti que quand on leur pose... Puis ça, c'est ça qui me fait le plus capoter.
Mm-hmm.
Quand on leur pose des questions sur leur comté, sur leur circonscription en particulier, on nous donne une des lignes de parti.
Oui, on n'a pas idée. Il nous a donné la partie entrepreneurship. Ouais, il doit avoir d'autres choses, hein, Louis Hébert, sur le terrain.
Mais ben, quelque chose de concret, de proche du monde. Tu sais, à la limite, nomme-moi le lac Saint-Augustin qui a plein de bactéries dedans. Hey, moi, j'aimerais ça mettre un filtre pour ce lac-là. Pour
exactement.
Tu sais, quelque chose de concret qui est vraiment proche des gens sur le terrain parce qu'un député, il faut que ça serve à ça.
Oui.
Mais pour en avoir eu beaucoup des candidats, t'as pas beaucoup de députés qui ont vraiment une connaissance approfondie du terrain puis qui sont capables de nommer des enjeux locaux pour
en effet.
On nomme la cassette.
T'as entièrement raison là-dessus. Un autre auditeur auditrice répond « Ah, je le sais, la CAQ est pas morte, mais oh que j'aime pas ça avec un émoji qui pleure. » En effet, tu sais, la CAQ les 8 dernières années, là, vous m'avez entendu le dire assez souvent à l'antenne de Boulevard 102.1, la région de Québec a été mise à mal par la CAQ. On n'a pas de projets d'envergure qui ont été développés. Là. Tramway à Sauvette à la fin, là, mais tu sais, on est dans des travaux alors qu'on serait censé avoir réalisé au moins la phase 1 si la CAQ s'était pas mis les doigts dans le nez depuis 2018, puis idem pour le troisième lien, idem pour la phase 4 de la promenade Samuel de Champlain, il n'y a rien qui a bougé dans la capitale nationale.
On oublie vite, puis on oublie surtout vite quand les autres partis nous donnent la chance d'oublier.
Ouais, en effet, t'as entièrement raison là-dessus, parce que présentement, moi, ce que je constate, puis je pense que tu fais le même constat, textino 418-971-1021, les autres partis font pas leur job. Les autres partis ont pris leur été de congé en disant « on se prépare pour la campagne électorale ». Christine Fréchette a vu ça, elle a dit « paf, moi j'en profite, voici mon scénario idéal, je viens d'arriver, je casse l'ancien gouvernement Legault ». Je crée un air de changement à la Mark Carney, vous allez me dire. Mais c'est exactement ce qu'elle est en train de réussir. Et pourquoi? Parce que les autres ont décidé de faire un calendrier normal de campagne électorale, alors que c'est une campagne qui sort de l'ordinaire avec une nouvelle première ministre qui a été élue dans un rassemblement militant. Les conditions ne sont pas les mêmes que si c'était François Legault qui se représentait à nouveau. Là, j'aurais compris l'été de congé. Mais là, tu n'avais pas le choix. Faut que tu fonces. Je comprends que Paul Saint-Pierre Plamondon a une famille. Je comprends que Charles Milliard peut vouloir un peu de repos. Je comprends ça, la gang de Québec solidaire aussi. Mais il y avait une opportunité de contrer l'élan Fréchette et ils ont laissé cet élan-là.
Ils ont laissé le terrain.
Ouais.
Puis je pense du côté de Paul Saint-Pierre Plamondon, puis j'ai hâte de voir son retour, là, parce que j'ose imaginer qu'on va le revoir très, très prochainement.
J'imagine que ça va être cette semaine.
Elle faudrait. Là,
ben, parce qu'on ne l'a pas vu depuis à Saint-Jean.
Ça fait longtemps.
Il a livré le livre bleu le 23 juin, la journée où il y avait une tragédie à Montréal.
C'est là la dernière fois qu'on l'a vu.
C'est là la dernière fois qu'on l'a vu.
C'est à
ce planté dans ses communications le 23 juin, là, revu depuis ce temps-là.
Je veux dire, à un moment donné, je comprends qu'il est d'avance dans un sondage, mais il va falloir qu'il réalise que la victoire n'est pas acquise. J'ai comme l'impression qu'on s'est mis les deux pieds sur le divan.
Oui, on s'est mis les deux pieds sur le pouf en disant « le vote franco va nous faire rentrer
tout
majoritaire. »
Tout est beau, j'ai gagné, la victoire est déjà là. Charles Milliard, l'effet Milliard n'existe pas.
C'est ça. On a oublié qu'il peut avoir un effet CAQ, un effet Fréchette. Il y a un auditeur qui dit « Hey, tu viens de trouver le nom du tramway, la Sauvette. » J'aime beaucoup.
Jusqu'à 14h, on en jase à Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
Mathias, il y a des choses qu'on a tendance à oublier dans la vie, tu sais. Des choses qui sont annoncées 2, 3, 4 ans à l'avance. Là, on déchire notre chemise, on est fâché. Arrive une campagne électorale, il y a des candidats qui déchirent leur chemise là-dessus, mais finalement, c'est le candidat qui a mis à la règle qui gagne. Puis là, pataf, on revient de vacances estivales, puis on dit « Hein? C'est là? C'est maintenant? » Qu'est-ce qui va arriver à Ville de Québec le 1er septembre 2026?
La Ville de Québec qui nous a lancé un rappel ce matin, puis je me suis dit, hey, va falloir en jaser de ça, parce que ça arrive
flash
vraiment...
Que t'as plus... eu. C'est là, là. C'est demain matin.
Hey, ça arrive vraiment plus vite qu'on pensait. Pour nous rappeler qu'à partir du 1er septembre 2026, les propriétaires d'appareils au chauffage au bois vont devoir avoir des appareils conformes aux normes de certification EPA pour utiliser leurs appareils sur le territoire de la ville de Lévis conformément au règlement adopté le 17 mai 2021. Donc, à partir du 1er septembre 2026, pas 2027, pas 2028, le 1er septembre qui arrive dans 3 semaines, 4 semaines,
bon,
là,
ouais,
un peu moins d'un mois.
Mais tu sais, c'est parce que le 1er septembre, c'est la rentrée scolaire. Tu penseras pas, t'as pas encore parti ton foyer, tu y penseras pas. Fait que là, c'est pour ça qu'à Boulevard 101, on vous le dit là, là.
Fait que si jamais vous avez un poêle, un appareil encastré, une fournaise, une chaudière au bois conçue pour le chauffage, à partir du 1er septembre, vous ne pouvez plus l'utiliser s'il n'est pas conforme aux normes de certification EPA. C'est déjà là, là. C'est déjà arrivé à partir de cet hiver. Le chauffage à bois va être interdit si vous n'avez pas un appareil certifié.
Exactement. Et là, vous avez toujours la subvention qui est disponible. La ville qui offre une subvention qui couvre jusqu'à 90 % des coûts pour un maximum de 1 000 $. Mais ça, on le rappelle, puis c'était ce qui était sorti dans les médias, et il y avait plusieurs citoyens qui étaient sortis là-dessus aussi, c'est que c'est pour remplacer ton appareil, ton foyer. Mais s'il faut que tu modifies des choses dans ta cheminée, s'il faut que tu fasses d'autres choses, il n'y a pas de subvention de disponible. Et il y a des gens qui nous avaient dit, ben écoute, moi, mon remplacement, ça allait jusqu'à 15 000 $.
Ben, je veux dire, mettons que tu as un appareil aussi là, qui t'a coûté 20 000 $, un beau poêle,
oui.
Il est magnifique, tu as payé ça 20 000 $. Puis là, tu as l'option d'avoir la subvention de 1 000 $ puis de remplacer ton bel appareil par un petit appareil qui n'est pas de la même ampleur.
C'est un peu cheapos, là.
Hey, ça fait mal, là.
Ben oui.
Hey, ça te tente pas.
Non, 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 exactement. J'ai bien hâte de voir comment on va jouer le dossier pour la suite. Puis là, si jamais il y en a qui sont des réfractaires, là, au 418-971-1021, on vous stoulera pas au maire Marchand, mais on veut le savoir, tu sais. Su tout le monde qui avait un foyer qui présentement se dit... Bon, ben c'est beau, j'ai fait le changement. Moi, je pense pas.
Ah non, vraiment.
Vraiment pas.
Moi, la majorité n'ont pas fait.
Exactement. Donc là, comment la Ville de Québec va jouer ça cet hiver? Parce que là, pour le moment, c'était facile pour la Ville de Québec, c'est-à-dire interdiction de chauffage parce que y a du smog. Mais là, tu peux plus faire ça rendu là. Il faut que tu donnes des contraventions.
Ben ouais. Ben en fait, je pense qu'il y a deux aspects là-dedans. Premièrement... Là, c'est interdit de chauffer si tu n'as pas un appareil certifié. Fait qu'à partir de comment qu'on va faire des examinations de tes appareils? De deux, est-ce qu'on va donner une amende à tous ceux qui se sont pas enregistrés? Parce que je vous rappelle qu'on peut s'enregistrer maintenant
en
sur
effet.
Le site de la ville. Si tu t'es pas enregistré puis tu chauffes au bois, est-ce que ça va être une amende automatique à ce moment-là?
C'est vrai.
Comment on va vérifier si ton appareil est certifié ou pas?
On va sortir nos fameuses lunettes.
Les fameuses lunettes.
Fait que nos jumelles géothermiques.
Selon moi, on va devoir obliger... de s'enregistrer pour pouvoir sortir nos jumelles, puis qu'à partir du moment où t'es pas enregistré puis qu'on te spot avec nos jumelles géothermiques, ben ça va être une amende.
Ouais.
Mais c'est quand qu'on va commencer à sévir? La première semaine, la deuxième semaine,
ben oui.
Après un mois? Est-ce qu'on va laisser une année de lousse?
Faut se mettre une note, Mathias, que dans la semaine du 10 août, lors du retour des vacances des élus de la ville, faut parler à la responsable du dossier. Je pense que c'est Marie-Josée Asselin,
ouais.
De mémoire. Faut lui parler pour savoir comment le mécanisme va fonctionner. Comment ça va fonctionner? Parce que est-ce qu'ils vont tout simplement dire « OK, ceux qui se sont pas enregistrés, l'inspecteur s'en vient à la maison puis check
puis
ton
foyer. »
Puis il
peut foyer. Rentrer. Tu sais, c'était marqué dans le règlement de la ville.
Rentrer.
Il pouvait juste décider de rentrer puis que si tu refusais qu'il rentre, c'était une amende.
Oui, exactement.
C'est indiqué dans le règlement.
Donc, est-ce qu'on va y aller comme ça? Est-ce qu'on va privilégier la sensibilisation? T'sais, honnêtement, moi, j'en ai pas de foyer. Je pense que si j'avais eu à payer 15 000 $, j'aurais dit « Oh, yab, je chauffe plus au bois. »
On l'utilise plus.
On l'utilise plus, mais en même temps, c'est ton chauffage principal, mais là, il faut que tu fasses un...
Ouais.
Tu sais, je connais pas les coûts là, pour faire installer, exemple, des plaintes électriques, mais c'est un pensée bien. Parce que c'est quand même, puis là, tu sais, je veux me faire l'avocat du diable 2 secondes et quart, parce que Oui, je pense que chaque être humain doit faire son effort pour la qualité de l'air. Mais quand je vois la pollution dans tous les pays du monde, puis les politiciens qui se foutent pas mal des règles environnementales, me dit c'est pas Claude à Sainte-Foy avec son foyer que quand j'y fais certifier, ça va changer la qualité de l'air au complet. Là.
Puis t'imagines-tu, parce que si je me trompe pas, OK, puis là, je suis vraiment pas sûr, mais si je me trompe pas, la ville va quand même se réserver droit de mettre des interdictions temporaires durant des épisodes de smog.
Ben c'est ça que je veux savoir.
Mais
normalement, si c'est certifié, t'as pas besoin d'interdiction.
Je suis d'accord avec toi, mais si je me trompe pas, je suis pas mal certain qu'on va continuer à se réserver droit de mettre des interdictions. Imagines-tu la tollée lors de la première interdiction temporaire avec les personnes qui ont payé 15 000 piastres pour changer leur appareil puis qui vont pas pouvoir l'utiliser quand même.
C'est pour ça qu'il faut parler à la responsable du dossier. La semaine prochaine, les élus vont être de retour de vacances pour avoir de la clarté là-dessus et éclairer justement nos auditeurs puis les gens qui ont des foyers à bois. Parce que moi, là, si j'ai investi puis qu'on me dit je peux pas l'utiliser, je vais dire, ben voyons. Pourquoi tu m'as fait d'investir
ta chemise?
Parce que normalement, avoir un foyer certifié fait en sorte que je peux l'utiliser, tu sais, tous les jours de l'hiver, ben, 365 jours par année.
C'est la logique.
Là. Normalement, c'est ça la logique. Donc, à suivre. Également, vous rappelez que c'est en 2030 que les foyers d'ambiance ne seront plus possibles. Et ça, présentement, il n'y a pas de solution de rechange certifié. Fait que ça, c'est encore pire. T'as un foyer d'ambiance, c'est fini à partir de septembre 2030. Donc, une règle de plus pour sauver la planète du maire marchand. Je suis très pro-environnement, je recycle, je fais attention à dans mes actions, je fais attention justement à l'environnement. Mais cette règle-là, là, c'est plate, mais moi, j'y ai jamais cru les 124 morts qui étaient créés par...
Puis on nous dit, même les experts disent, ouais, c'est pas les données les plus fiables au monde, mettons.
Non, c'est ça. Donc, vraiment pas. On fait une courte pause, on va parler avec Gabriel Jugard, mais avant circulation.
Oui, oui, pas le choix, là. Puis d'ailleurs, on a un texto qui rentre sur ça. Qu'est-ce qui se passe sur le pont? Eh bien, c'est Henri IV, direction nord, hauteur, boulevard Champlain. Donc, en sortant du pont, la voie du centre et la voie de droite qui sont présentement bloquées en raison d'un accident... Puis ça crée un méchant bordel. Là. Sur le pont, là, ça remonte sur la 73 par la 20 des deux côtés. C'est un parking là, actuellement. Si jamais vous avez des informations supplémentaires concernant ce qui se passe ou autre chose, 418-971-1021, c'est par texto.
Gabriel Jugard de l'Institut économique de Montréal, après cette courte pause à l'émission, on en jase. Êtes-vous comme moi? Vous ennuyez-vous de Justin Trudeau? Moi, je m'en ennuie pas, pantoute. Zéro puis une barre. Mark Carney, ses défauts, mais maudit que je suis content qu'il soit notre premier ministre. Et tous les premiers ministres qui sont passés avant Justin Trudeau ont été meilleurs que lui. Et c'est ce que Gabriel Jugard va nous démontrer. Ah, que notre pays en arrache en raison de ces 10 ans de Justin Trudeau. Reste avec Katy Perry, mon ami. Jusqu'à 4... Émission en jase, il est 13h06. On parlait de Gabriel Jugard. Également dans l'émission, je vais absolument vous parler d'un texte d'opinion que j'ai lu dans Le Soleil. Super intéressant. On va faire un lien avec le tramway et le TGV. C'est les difficultés de vendre des projets futurs dans le présent. T'es Mathieu, on est toujours « Ah, maudit tramway, ça coûte ben trop cher. Puis hey, le TGV, ça n'a pas d'allure, nos terres agricoles, puis tout ça. » Mais il y a toujours quand même des retombées positives à long terme. Mais... sont toujours plus faibles que les désagréments à court terme.
Oui.
Et c'est le texte, justement, c'est la lettre d'opinion de Pierre Simard, professeur retraité à l'ENAP dans le Soleil. Faut absolument que je vous en parle. Je vais vous parler des caractéristiques précises qu'il nomme. Je trouve tellement que ça représente bien l'immobilisme de la CAQ dans les 8 dernières années. Ici,
de dire,
dans la région de
rien
Québec.
Rien bouge, aucun dossier bouge.
Exactement. Et il
statique.
Met, ouais, c'est ça. Puis il met le doigt vraiment sur des éléments clés que je vais te les nommer. Tu vas dire, hey, ben oui, on a jasé de ça dans le tramway.
Qui reviennent dans tous les dossiers.
Qui reviennent dans tous les grands projets d'infrastructure. Okay. Je vais t'en nommer, tu vas dire, ben oui, on s'assigne là-dessus encore sur le troisième lien. C'est super intéressant comme texte.
J'ai hâte de voir.
Ouais, je vais vous le faire découvrir après la prochaine pause. C'est vraiment très intéressant. Pierre Simard, professeur retraité à l'ENAP. Je retrouve un bon chroniqueur. Je pourrais même dire un ami. Un gars avec qui j'adore parler, c'est Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal et analyste politique senior. Gabriel, comment vas-tu?
Ça va bien. Salut JF, salut Mathias.
Gab, hier, je faisais ma petite tournée de médias sociaux, puis là, je tombe sur une étude de l'Institut économique de Montréal qui me dit « Hey! » Il y a plus de 10 000 fonctionnaires fédéraux qui demandent une retraite anticipée. Fait que là, je me dis, bonne nouvelle, enfin, on dégraisse cet état-là. Mais après ça, je tombe sur ton texte qui me dit, ouais, c'est parce que Justin Trudeau l'avait engraissé pas à peu près. Raconte-nous la catastrophe Trudeau.
Ben, la catastrophe Trudeau, hein, faut se rappeler, c'est quand même une décennie, là. Donc, on en a eu pour notre rhume bien en masse. Mais ce qu'on a vu, c'est quand même que on a passé là d'un état d'environ 250 000 employés au Canada, au fédéral, à 350 000, 360 000. Donc, ça a augmenté de plus de 100 000 employés sous Justin Trudeau. Là, c'est inédit là comme augmentation. Et ce qu'on voit là avec cette augmentation de 40 % de l'ensemble là, de l'administration publique fédérale, c'est qu'aujourd'hui, Mark Carney se dit, ben ça n'a pas eu de bon sens. Là. Sous Justin Trudeau, on va réduire le nombre de fonctionnaires. Alors, ça s'inscrit là dans cette logique-là, de dire, ben là, après 100 000, il faut en réduire. On essaie de réduire de 37 000. On propose des retraites anticipées. 10 000 fonctionnaires disent oui. Alors, ça va dans la bonne direction, c'est évident, mais c'est tellement allé loin dans la mauvaise direction sous Justin Trudeau, que ça a des impacts très concrets. Là. On a augmenté de plus de 30 % l'impact de la rémunération sur les dépenses publiques depuis 2019. Ça fait un trou dans les dépenses publiques. Et ça, ben, c'est nous, collectivement, qui allons devoir payer ça. Alors, il faut réparer beaucoup de pots cassés, malheureusement, en matière de dépenses publiques, d'embauche de fonctionnaires. Il y en a eu des pots cassés sous Justin Trudeau.
Oui, exactement. As-tu confiance en Mark Carney et à Joël Lightbound, le ministre québécois qui est justement en charge de revoir justement les fonctionnalités de l'État? Bon, honnêtement, Joël Lightbound, je l'estime beaucoup. J'ai l'impression que les libéraux vont quand même faire un bon pas de l'autre côté de la rivière par rapport à Justin Trudeau. Je me trompe-tu?
Non, tu te trompes pas. Je pense que c'est très clair que depuis le début, il y a déjà des éléments là, du nouveau gouvernement de Mark Carney qui sont à souligner parce que ça va pas dans la bonne direction. Le déficit a augmenté. Il y a certaines choses, mais il faut quand même le dire, là, une baisse des fonctionnaires, je pense que c'est important. Puis il y a d'autres choses. Hein. On a parlé des fonctionnaires, mais tout ce qui est réglementation mise en place qui vient étouffer l'industrie du secteur, en fait, de pétrole et gaz. On a vu la taxe carbone, le plafond d'émissions de GES du secteur, l'interdiction de méthanier de s'accoster sur la côte de la Colombie-Britannique. Il y a d'autres également, là, réglementation C69, qui est la longue évaluation environnementale qui vient réduire les investissements. Donc, on a adopté plusieurs réglementations qui étouffent le secteur. Et quand Mark Carney est arrivé, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de mettre de côté une partie de la taxe carbone, notamment celle qui est payée par les consommateurs à l'essence. On a mis de côté le plafond d'émissions. On réfléchit sur l'interdiction des méthaniers. Bref, on essaie de détricoter ce qui a été tricoté par le gouvernement de Justin Trudeau et qui a réellement nui à l'industrie et à l'économie canadienne plus largement. Donc, il faut le dire quand même, il y a des bonnes choses qui se font et qui vont se faire. Il y a actuellement une étude là, justement pour tout revoir, comment ça fonctionne au Canada, les grands projets, parce que c'est long, c'est coûteux, il y a de l'incertitude. Puis ça, mais les investisseurs qui veulent investir, pas juste 4-5 piastres, là, des milliards et des milliards de dollars, ils vont aller aux États-Unis avant d'aller au Canada. Puis ça, on le voit, là, il y a une évolution dans les sondages envers les investisseurs qui disent au Canada, c'est moins intéressant. Il y a plus d'incertitudes. La réglementation est plus coûteuse, moins intéressante. Et donc, ce détricotage-là des mauvaises politiques publiques mises de l'avant par Justin Trudeau, il faut le mentionner, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'on a justement à revenir en arrière plutôt que simplement d'aller dans la meilleure direction. Là, on défait ce qui ne fonctionne pas.
Est-ce qu'on peut dire que Justin Trudeau avait une vision du Canada qui diffère complètement de tout ce qu'on a eu par le passé? Puis je m'explique, on aime ça mettre des libéraux puis des conservateurs aux antipodes, mais tu regardes un Mark Carney, tu regardes un Jean Chrétien. Côté économique, on se rapproche quand même beaucoup plus des conservateurs historiquement du côté libéraux que ce qu'on a pu voir avec Justin Trudeau.
C'est C'est un commentaire vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'il y a une forme de plasticité du gouvernement libéral. Hein, on peut être beaucoup plus en faveur du développement économique, ou on peut retourner de bord avec un Justin Trudeau. Il est clair que Justin Trudeau puis le gouvernement de Justin Trudeau avait une vision qui était différente. Hein. On n'allait pas vers le développement économique. On mettait une succession de réglementations qui venaient étouffer un peu le développement économique, sinon beaucoup. Puis quand on regarde les chiffres là, de croissance du PIB par habitant, concrètement, on a une grosse tarte, la tarte économie, puis les pointes de tarte, c'est le nombre d'habitants. Mais les pointes de tarte, là, elles n'ont pas grossi. Autrement dit, en tant que Canadien, en tant qu'individu, on n'a pas eu d'amélioration substantielle de notre qualité de vie. Puis ça, bien, il y a des raisons qui sont liées à Justin Trudeau. J'ai parlé non seulement de l'augmentation des dépenses publiques, donc de la dette, de l'imposition, il y a également la réglementation. Puis un autre élément que Justin Trudeau est venu faire également avec son gouvernement, bien, c'est d'augmenter le taux marginal maximal de taxation. On est passé de 29 % quand vous faites plus de 200 quelques mille au fédéral à 33 %. Donc, quand on vient combiner ça au Québec, quand vous faites plus de 250 000, vous êtes taxé à 53,3 % aujourd'hui. Et donc, on peut dire, oui, c'est la juste part, mais en réalité, quand on regarde les études puis on applique là, les formules compliquées là, d'économétrie, ce qu'on voit, là, c'est que cette augmentation de la taxe, elle a fait en sorte que presque 10 000 entreprises au Canada n'ont pas été créées. Et dans un contexte, on va le dire quand même, depuis la pandémie, où il y a une chute de l'entrepreneuriat au Canada, au Québec, c'est très dommage parce qu'on est allé de l'avant avec des mauvaises réglementations, plus de fardeau fiscal. Donc, collectivement, c'est nous qui perdons.
Gabriel, quand je pense à l'ère Justin Trudeau, je pense aussi à la filière batterie. Puis ça, quand j'ai eu une entrevue avec Joël Lightbound, je l'ai dit, c'est un politicien que j'estime beaucoup, j'ai pas aimé sa réponse quand j'ai dit « Ouais, mais vous êtes embarqué dans la filière batterie, vous aussi. » François-Philippe Champagne a fait énormément de stepettes et de représentations auprès du gouvernement du Québec. Puis il s'est vanté en disant « Ouais, mais au fédéral, on ne dépense aucun argent. C'est juste parce que les programmes fonctionnent différemment du Québec que du fédéral. Parce que si tu mets François-Philippe Champagne au provincial, il va dépenser autant d'argent que ce que François Legault aurait fait. Sens-tu qu'il va y avoir moins d'interventionnisme du côté de Mark Carney également?
Ben, c'est intéressant. Je pense absolument pas qu'il y aura moins d'interventionnisme. Puis ce que M. Lightbound a dit est vrai, mais ne capture pas la réalité telle qu'elle est. Donc, je suis content quand même que tu recadres un petit peu la réponse parce que oui, il n'y a pas eu d'argent engagé, mais c'est quand même le gouvernement de Justin Trudeau et ses ministres, hein, faut le dire. François-Philippe Champagne, qui est, on pourrait dire, le ministre de la filière batterie, où on est arrivé avec Stellantis, Volkswagen, Honda, Northvolt au Québec. Bref, c'est des dizaines de milliards de subventions où on s'était engagé. Alors vraiment, ça, c'est une mauvaise chose. C'est évident. Tous les Québécois aujourd'hui, tous les Canadiens le savent que c'était une grave erreur. Maintenant, la raison pourquoi je te dis non, JF, c'est quand je regarde qu'est-ce qui est proposé par le gouvernement de Mark Carney, c'est un fonds souverain. Un fonds souverain pour venir financer des projets de développement économique plutôt que simplement changer la réglementation et le cadre fiscal pour être plus attractif. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on veut potentiellement privatiser les aéroports, qui est une mesure que je soutiens par ailleurs, il faut être clair. Mais cet argent-là devrait réduire le déficit, devrait repayer une partie de la dette, même si c'est une petite partie. Pas d'arriver avec une vision de politique industrielle où le gouvernement est le maestro du développement économique. Malheureusement, sur ce point-là, on reste encore dans une dynamique de Justin Trudeau. Et pour finir, parce que c'est vraiment important, les fameux programmes sociaux qui ont été mis de l'avant par Justin Trudeau, mais qui étaient de compétence provinciale, M. Carney ne les remet pas en cause et je pense que c'est nocif parce que ce n'est pas soutenable pour les finances publiques du fédéral.
Ouais, tu penses nécessairement à l'aide dentaire et à ce type de programme-là, j'imagine.
Absolument, qui va être très, très coûteux et qui, au final, quand on demande au gouvernement du Québec, ne voulait pas. Donc, c'est de compétence provinciale, d'une part, et ça coûte des milliards et des milliards de dollars dans un contexte, rappelons-le, où on a plus de 65 milliards de déficit. Je pense que c'est mal avenu de simplement les conserver. Il y avait une forme de, je veux pas dire tête en l'air, mais d'insouciance de la part du gouvernement Trudeau qu'on veut conserver parce que politiquement, c'est peut-être coûteux de les abolir, mais c'est nécessaire pour les prochaines générations.
Ouais, mais électoralement, ça demeure un petit peu payant parce que ça permet aux libéraux de jouer dans ce fameux centre très élargi puis d'être au pouvoir depuis une dizaine d'années.
c'est mon avantage de ne pas être politicien et d'être un simple analyste en politique publique. Ça me permet de dire ce qui n'est pas populaire électoralement.
Exactement. Gabriel Giguère, toujours un plaisir de te parler. Tu me fais signe dès que tu as un sujet d'intérêt comme celui-ci. C'était très intéressant, cette comparaison entre Mark Carney et Justin Trudeau. Et de savoir qu'au moins, on a pris quelques tangentes dans la bonne direction avec Mark Carney.
À bientôt, messieurs.
Salut, merci. Gabriel Giguère, analyste politique à l'Institut économique de Montréal. Vous en pensez quoi? Êtes-vous satisfait du travail de Mark Carney depuis son arrivée en poste au 418-971-1021? Moi, honnêtement, globalement, je suis satisfait.
Mais beaucoup plus que ce qu'on avait sous Justin Trudeau, tu sais. Puis on a eu un texto à cet égard-là que Justin Trudeau n'était pas un libéral. C'était un peu un NPD caché. Moi, je suis un peu d'accord avec ça.
D'accord.
Tu regardes historiquement les libéraux, maintenant que Justin Trudeau est passé, on les associe à une gauche économique et tout. Mais tu regardes historiquement, les premiers ministres libéraux ne faisait pas de déficit non plus.
Jean Chrétien
a eu des surplus durant ses mandats.
Paul Martin avait mis à hache dans les dépenses de la fonction publique.
Donc, on gérait les finances publiques, j'ai envie de dire, d'un côté économique, un peu comme les conservateurs le font ou un peu comme les conservateurs veulent le faire.
Bien, de toute façon, si tu regardes le pendant libéral au provincial, c'est le gouvernement de l'austérité.
Exact.
Fait qu'au fédéral, on avait le même schéma et le courant de pensée.
Ou qu'on changeait beaucoup entre des libéraux et des conservateurs à l'époque, c'était sur l'aspect social. C'est là qu'on divergeait.
Exactement.
De droite et de gauche. C'était pas sur le plan économique.
En effet.
Donc là, d'avoir un retour, puis là, je comprends que Mark Carney continue à faire beaucoup de déficits. Ça, c'est un peu ça qui me met inconfortable.
Moi aussi. C'est pour ça que j'ai
mandat.
Dit globalement.
Ouais, c'est ça. Pas tout est parfait. Mais de reprendre une voie économique un peu plus à droite, comme qu'on a vu historiquement, puis qu'on a eu historiquement au Canada, ben j'ai pas le choix de dire que c'est une bonne chose.
Quand on regarde comment l'histoire s'est dessinée, par contre, on comprend pourquoi les libéraux avaient choisi un chef un peu plus à gauche. Puis là, nonobstant le nom Trudeau, là, c'est sûr que ça a attiré les libéraux en disant « Avec Trudeau, on va gagner ». Mais il a été élu à titre de premier ministre le 4 novembre 2015. On sortait de la vague orange avec Jack Layton et la NPD.
Fait
donc,
qu'on allait chercher la vague orange.
Exactement. Il y avait un courant social, économique, je vais même dire politique, environnemental, qui était là à ce moment-là au Canada en 2015, qui n'est plus là parce que là, les gens se disent « Ouais, attends une minute, je peux bien sauver la planète, mais si crime, je deviens itinérant, ça ne me servira pas plus. » Tu comprends mon exagération, là, mais dans le sens que...
Mais c'est qu'à l'époque, ça se passait, tout se passait bien. Moi je
exactement.
Le dis, là, tu retournes à cette époque-là, les maisons ne coûtaient pas cher, la
ben
nourriture
non.
était abordable, les salaires étaient bons.
Ben, on venait de succéder Jean Chrétien et Stephen Harper, donc ça allait bien au niveau
publique,
économique.
Ça se passait de façon exceptionnelle, donc à cette époque là, c'est normal que là, hey, notre vie va tellement bien, on va commencer à se préoccuper de d'autres
points.
C'est un
bon point que tu amènes, j'aime ça. C'est entièrement raison. On s'est comme mis à se préoccuper de dossiers qui concernaient pas juste le Canada, parce que t'es, l'environnement, c'est mondial. Puis, on a voulu être les fers de lance de ces nouveaux thèmes-là. T'sais. On a voulu être le pays le plus environnemental. On a voulu être le pays qui développe la filière batterie. On a voulu être des fers de lance, mais on s'est planté.
Quand que t'as de la nourriture sur la table, que t'as un logement au-dessus de la tête, qu'il te reste de l'argent à la fin du mois puis que ça se passe bien, ben que tu trouves des soucis ailleurs. Puis c'est à ce moment-là que le souci environnemental a pris beaucoup de place. Pourquoi? Parce que le monde avait plus peur d'arriver à la fin du mois.
Ouais.
Donc là, hey, maintenant que moi, je suffis à mes besoins, hey, faudrait peut-être commencer à se poser des questions sur l'environnement, puis c'est revenu populaire. Puis là, on voit un contrebalance, justement,
ben
parce
oui.
que...
ben parce qu'on est allé trop dans le
ben
pendant.
C'est ça. Puis là, on a d'autres priorités, parce qu'on est revenu dans hey, mettre la nourriture à la fin du mois, c'est difficile. Se loger,
exactement.
C'est difficile. Fait que dans ce temps-là, ta priorité, c'est pas de sauver la planète, c'est de te sauver toi.
En plein ça. Donc, Justin, je ne m'ennuie pas. Serge qui écrit « Carney, bonnet blanc, blanc bonnet, de la poudre aux yeux. Il fait quoi depuis son élection? J'en ferai des déficits comme lui. » C'est pour ça que j'ai dit globalement, Serge, parce que moi, honnêtement, les déficits...
C'est problématique.
Oui, exactement, c'est problématique. Tu sais, je comprends que dans certains pas de récession économique. Là, il peut en avoir, mais en temps normal, tu devrais être capable de boucler le budget tout le temps. C'est ce que Justin Trudeau n'a pas été capable de faire. Par contre, où est-ce que je suis satisfait de Mark Carney? Moi, je vais le dire, je trouve que, premièrement, il tisse des liens très importants avec le continent européen. Il a réussi à bien diversifier l'économie, une première étape. On l'a vu dans les chiffres qui étaient sortis dans la presse, qui ont été confirmés par Gabriel Giguère, à l'effet que les exportations qu'on avait perdues des États-Unis, on a été chercher une grande proportion en Europe, à peu près 85%, donc c'est quand même un chiffre, moi, qui m'a étonné, qui m'a agréablement étonné. Puis, au-delà de ça, on le voit que c'est un homme d'État, on voit que c'est une personne qui est bien calée au niveau économique, puis juste la diminution de 10 000 fonctionnaires par retraite anticipée, ben moi, je trouve déjà que c'est un bon coup. Fait que ça, globalement, je suis quand même satisfait parce qu'il a fait des bons coups. Mais oui, tu sais, le déficit qui traîne et qui traîne, puis là qu'on me le dit que c'est un déficit d'investissement puis que ça va rapporter, c'est ça, c'est un déficit.
Un déficit monstre aussi, il y a beaucoup... De un, il y a d'air de s'en foutre de la démocratie, ça aussi, ça vient me chercher.
C'est vrai, t'as raison, mais moi aussi, ça, ce côté-là, je l'aime pas avec le fait qu'il est jamais à la Chambre des communes.
Jamais à la Chambre des communes, mais beaucoup de lois en place pour... assouvir plus de pouvoir central, pour centraliser le pouvoir beaucoup de un autour de lui,
en effet,
mais autour de son parti pour empêcher le travail des oppositions.
Puis il va jouer beaucoup dans les paliers de compétences, compétences provinciales.
Donc ça
m'énerve. C'est des points négatifs, oh, oui, t'as entièrement
ça
raison. Parce que ça, j'ai globalement satisfait, mettant globalement, mettons, à 55% positif,
c'est
45% négatif.
Son prédécesseur était
tellement
pas
mauvais. C'est ça.
Exactement. Ça, c'est facile.
Mais voyons voir, on pourra le juger au bout de 4 ans maintenant qu'il est allé acquérir sa majorité de façon pas très démocratique. Ça aussi, ça m'a énormément déplu. J'aime mieux une dette que Poilievre. Nous écrit un autre auditeur, auditrice. Ouais, bien, c'est sûr que le Parti conservateur va toujours avoir des gens qui vont être très réfractaires à eux ici au Québec parce qu'il y a plusieurs valeurs, malheureusement, pour eux qui ne sont pas en adhésion avec ce qu'on a ici au Québec. Donc, c'est tout simplement la norme.
Hey Jeff, j'ai pas le choix d'aller faire un petit tour
circulation.
Sur la route avant parce que, hey, crime que c'est un bordel. pour de vrai, là, c'est un bordel dans plusieurs secteurs. À commencer par le pont Pierre-Laporte, il y a un accident de l'autre bord, ça, à hauteur boulevard Champlain, en direction nord. La voie de droite et la voie du centre qui est présentement bloquée. Puis X, c'est pas beau. La 73, là, c'est du pare-choc à pare-choc jusqu'à rue Beaulieu. Sur la 20, direction ouest, ça remonte après route des Rivières, pare-choc à pare-choc aussi. En direction est, même chose. C'est... Pour de vrai, là, accéder au pont Pierre-Laporte, en ce moment, c'est dégueulasse. Accéder au pont de Québec, en ce moment, c'est dégueulasse en direction nord. Donc, si vous êtes capable de retarder là, peut-être de 30 minutes votre chemin vers la rive nord, ce serait à faire. J'ai pas le choix de vous dire aussi, un peu avant route la queue, il semble avoir de quoi 20 direction ouest. J'ai pas nécessairement de détails, mais il y a un bon ralentissement aussi. Pare-choc à pare-choc dans le secteur, probablement un accident. Maintenant, 20 direction ouest entre Taniata et Chemin des Îles, quand même un ralentissement. Guillaume Couture, du pare-choc à pare-choc dans le secteur de Chemin du Fleuve en direction ouest. Je vous transporte sur la rive nord maintenant parce qu'il y a eu un accident au cours des dernières minutes. Intersection boulevard Wilfrid Hamel et Duplessis Nord. Deux voitures qui sont rentrées en collision. En Duplessis, direction nord, la voie du centre gauche et la voie du centre droite. Donc, les deux voies du centre qui sont présentement bloquées dans le secteur. Sur Wilfrid Hamel ouest, la voie de droite qui est bloquée. Les services d'urgence sont sur place. Il y a quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Après la pause, je vous parle de cette lettre d'opinion dans le soleil d'un ex-enseignant au niveau de l'ENAP, donc à l'Université du Québec, Pierre Simard, où il nous dit pourquoi les grands projets commencent rarement par un premier coup de pelle, mais généralement par une pétition et de l'opposition. Et on va faire également quelques manchettes avec Mathias Turcotte. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 101. Hey, vous êtes à Boulevard 101, l'émission On en jase. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci, vous intéressez beaucoup. 418-971-1021. Également, vous êtes pris dans le trafic. Écoutez-nous. Vous sortez de la région de Québec. Vous allez être pris dans le trafic ailleurs parce qu'il y a des travaux partout, surtout si vous allez vers Montréal. Téléchargez l'application BLVD 102.1 sur Google Play ou App Store. C'est la meilleure façon de nous écouter.
Hey, Jeff, tu as parlé de trafic. J'en profite juste pour vous rappeler là, que l'accès aux deux ponts en direction nord en raison d'un accident à la sortie du pont Pierre-Laporte en direction nord, là. L'accès au pont Pierre-Laporte puis l'accès au pont de Québec, dégueulasse. Présentement.
Exactement.
Par choc à par choc.
Oui, Sylvie nous écrit « J'aime mieux voir Mark Carney en Europe que dans la cour d'école du Parlement. » T'as pas tort. Avec les ovations en
fin. Tout le monde crie aux deux minutes.
Bon. Ah oui, les ovations de tout le kit. On n'entend rien du tout. Oh, un nouveau texto qui vient de rentrer qui est intéressant. Ça fait longtemps que Carney aurait dû s'asseoir avec les États-Unis pour négocier, mais il aime mieux tout blâmer sur Trump, ce qui fait du gros capital politique pour Carney. Carney n'a aucun intérêt à négocier, retardera une entente tant qu'il le pourra pour laisser croire à un elbow up. Mais pendant ce temps, ce sont malheureusement nos entreprises canadiennes qui subissent les contre-coups. C'est-tu quoi? Oui, les entreprises canadiennes subissent les contre-coups. Il n'y a pas de doute là-dessus, surtout dans le domaine du bois d'œuvre, là, que ça va très, très, très mal ici au Québec et au Canada. Moi, je le dis, c'est que malheureusement, je pense qu'on était obligé de passer par là parce qu'on le voit de toute façon avec le conflit en Iran. On le voit aussi avec les droits de douane inventés par Donald Trump sur le travail forcé. C'est plate, puis je veux pas faire trop d'anti-Trump, mais à l'heure actuelle, le Canada était dans une position trop de faiblesse pour s'asseoir avec Donald Trump. Si les élections de mi-mandat virent comme on pense, c'est-à-dire que les démocrates vont reprendre au moins le contrôle de la Chambre ou du Sénat, là, le Canada va pouvoir s'asseoir avec les États-Unis.
Puis pour l'instant, ça s'annonce comme étant la Chambre des représentants. Puis je vous rappelle que théoriquement, les tarifs douaniers, c'est une taxe. Puis les taxes doivent être approuvées par la Chambre des représentants.
Exactement.
Puis là, ça va être à voir comment Trump va essayer d'éviter la loi avec ça. Là, mais c'est sûr que ça va changer la dynamique.
En effet, c'est très plate jouer l'horloge. C'est très dommageable pour plusieurs industries au Canada. Mais malheureusement, moi, puis là, tout ça, ça n'engage que moi, mais moi, l'évaluation que j'en fais en tant que simple animateur de radio, c'est que je pense malheureusement que la meilleure stratégie, c'était de jouer l'horloge.
J'en profite pour faire un lien en commençant mon bloc de nouvelles avec Dominique Leblanc, le ministre responsable du commerce Canada-États-Unis, qui se dirige présentement vers Washington, justement, pour négocier avec les États-Unis, en particulier son homologue américain, Jamison Greer. Ça va être en vue, bien sûr, en lien avec la menace tarifaire du président Donald Trump, des tarifs de 50 % qui devraient rentrer en vigueur le 19 août. Donc, on va négocier notamment ACEUM, puis comment on peut éviter ces fameux tarifs du président américain. L'ex-PDG de la Chambre de commerce de Montréal qui se lance pour le Parti libéral du Québec, c'est ce que Radio-Canada nous a appris ce matin. C'est Michel Leblanc qui va porter les couleurs libérales dans un château fort libéral, Marguerite Bourgeois. Donc, normalement, l'homme devrait être élu sans problème.
Vraiment.
C'est quand même une très belle candidature pour le Parti libéral du Québec. Et je termine en vous rappelant une collision entre deux véhicules qui a eu lieu sur l'autoroute 20 dans le secteur de Saint-Luce. Un camion semi-remorque a rentré en collision avec une voiture, un homme de 78 ans qui a perdu la vie. On n'a pas nécessairement de détails concernant les circonstances de l'accident. Ça avait mené à la fermeture de l'autoroute 20 un peu plus tôt aujourd'hui, mais le tout est réglé à l'heure où on se parle.
Très bonne nouvelle. Au sport, bien, c'est l'Omnium de tennis canadien qui a lieu à Toronto et également à Montréal. C'est les hommes qui sont à Montréal. Alors, à l'heure actuelle, Denis Shapovalov mène 4-3 dans son match contre Zachary Zvadja. Shapovalov qui a une saison très difficile. Félix Auger-Aliassime, qui était censé débuter ce soir, va débuter à la place demain en raison justement de l'appui qu'il y a eu dans les deux premiers jours du tournoi. Mais ce soir, 20h10, Gabriel Diallo sera en action sur le court central face à Luciano Darderi, qui est le 19e joueur mondial. Alors, ça va être un excellent... ça va être un défi très difficile pour Gabriel Diallo, devrais-je dire. Les Capitales de Québec, eux, sont à l'étranger. Ils affrontent les Valley Cats de Tri-City. C'est pour une série de 3 3 matchs, et vers les 4 qui ont vraiment une mauvaise saison. 28 victoires et 44 revers. Les Capitals, c'est 47 victoires et 24 revers. Et vous dites que dans la NFL, Bijan Robinson, l'excellent porteur de ballon de 24 ans des Falcons d'Atlanta, a signé un contrat record pour un porteur de ballon. 3 ans, 75 millions de dollars, 25 millions par saison. C'est plus de 1400 verges au sol l'an dernier pour Bijan Robinson. C'est tout près de 2000 verges. C'est tout près de 2300 verges combinées si on prend avec ses verges par voie aérienne. C'est le meilleur porteur de ballon à l'heure actuelle dans la NFL. Donc, les Falcons d'Atlanta, après avoir donné le contrat le plus lucratif de l'histoire à un garde, et c'est notre Québécois Mathieu Bergeron qui l'a eu sur la ligne offensive, ben là, ils viennent de récidiver avec Bijan Robinson. Faut croire qu'ils ont confiance en leur élément.
Puis c'est pas pire, il faut être payé plus que 8000 $ par verge parcourue. Il est pas mal pris.
Pas si pire, il est pas mal pris, certain, tu as entièrement raison. Mathias, une lettre d'opinion a attiré mon attention dans le Soleil aujourd'hui. Je vous l'ai dit, c'est la lettre qui est signée par Pierre J. Simard, professeur retraité de l'ENAP, où il dit pourquoi les gagnants restent silencieux dans des projets de grande envergure et qu'on entend énormément les perdants. Puis, je trouve que son analyse est très appropriée et ça fait en sorte que ça tend à toujours nous faire hésiter sur ces grands projets-là. Puis là, finalement, quand on arrive au bout du grand projet, on se dit « Ben voyons, ça coûte trop cher! » Exemple très concret, le troisième lien. Qu'est-ce que les opposants disent maintenant? On n'a pas 10 milliards à mettre. Faut mettre ça dans la santé.
Oui.
Faut mettre
parce
ça dans l'éducation.
Parce qu'on a attendu, puis c'est rendu
parce
à ce prix-là.
Parce qu'on a attendu. Si on l'avait fait en 2015, comme on avait prévu, on en serait à quoi? On serait tiré à 2-3 milliards.
Qui est trois fois moins.
Exactement. Même principe pour le tramway. Tu sais, qu'on soit pro ou anti-tramway, il faut reconnaître que le tramway était à 3,3 milliards en 2018.
On est à 7,6.
Là, il est à 7,6. Avec un écart de 4,3 milliards de dollars. Puis ce qui explique, c'est le manque de courage politique. Puis je trouve qu'il a entièrement raison. Puis c'est ce qui s'est produit dans la région de la capitale nationale dans les 8 dernières années avec la CAQ. Pourquoi le manque de courage politique? Parce que les opposants sont pas nécessairement plus nombreux. Un projet, quoique dans les sondages, on le voyait pour le tramway, mais sont simplement beaucoup plus motivés et mobilisés pour se faire entendre. Et là, il donne l'exemple là-dedans du TGV. Puis je trouve tellement que c'est un bel exemple. Parce qu'au niveau du TGV, parle aux gens au Canada. Là. On l'avait vu avec un sondage. 80% des gens disent « On en veut un TGV. » Il est temps qu'on en ait un. Il est temps qu'on soit au goût du jour.
Qu'on reprenne le retard qu'on a pris partout ailleurs en termes de transport en commun.
Mais t'es entendu ces gens-là dans les médias?
Ah non.
C'est ça. T'es entends pas parce qu'ils sont où? Ils sont partout
ben
au Canada.
Mais pourquoi ils parleraient?
Mais pourquoi il parlerait? Quand on a dit qu'il va le faire, il va le faire. Donc, il ne parle pas. Ceux qu'on entend, c'est, par exemple, les agriculteurs de Mirabel. Eux, on les entend beaucoup. Ils sont contre le projet. Pourquoi? Parce qu'évidemment, eux vont vivre l'impact du projet directement sur leur terrain. Fait qu'en même temps, c'est normal qu'ils réagissent. Hey, moi, si le tramway avait fait en sorte que je perds une portion de mon terrain devant moi, ben, j'aurais sûrement réagi.
T'aurais voulu sortir d'un média, faire du bruit, dire hey, la situation que je vis actuellement, c'est inacceptable.
Exactement. Et ça, ben évidemment, on revient à ce qu'on a dit tantôt, la faiblesse des candidatures avec le fait qu'ils ne connaissent pas le terrain de leur circonscription. Mais ça, ben ça fait, lorsque ça arrive, ben ça fait en sorte que les députés de ces circonscriptions-là ben vont voir le chef. T'es-tu sûr? T'es-tu sûr de faire ton projet? Parce que... Tu vas le faire le tramway parce que, shit, si le tramway passe dans Louis Hébert, hein, peut-être perdre ma job, moi.
Beaucoup de monde qui m'écrivent, qui me disent qu'ils n'en veulent pas du tramway.
C'est ça. Sûr de faire telle affaire? Va falloir changer les règles d'urbanisme. Hein. Iii, 22 étages. Moi, c'est parce que je vais avoir des centaines de personnes qui vont m'appeler. On a des courriels à gérer.
Hey, là, il va falloir que je gère ça. Après ça, le monde ne va pas vouloir voter pour moi aux prochaines. Hey, je veux garder ma job. Là.
Exactement. Donc, ce que M. justement Simard nous explique, c'est que dans les grands projets, la géographie, malheureusement, finit toujours par l'emporter. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que la géographie proche, c'est-à-dire les gens qui vont vivre directement le projet, vont l'emporter sur les gens qui vont aussi bénéficier du projet, mais qui ne seront pas dans cette géographie
proche. OK, oui, je comprends.
Je reviens avec le TGV. Moi, là, je suis à Québec. Je vais bénéficier du TGV, crème. Je pourrais me rendre à Montréal en 1h30. Et moi, y aller. Ouais. Je pourrais même dire, hey, à soir, je m'en vais au Canadien.
Tu prends le TGV, tu reviens, c'est réglé.
Je reviens, c'est réglé. Je peux faire une petite sieste, puis j'anime à la radio le lendemain matin à 4h. Ni vu, ni connu.
Simple.
Je suis allé voir le Canadien.
Pas de trouver un parking sur l'île.
C'est justement. Mais moi, je ne signerai pas une pétition pro-TGV, puis je ne partirai pas mon groupe de mobilisation. On veut un TGV pour aller au Canadien
ben,
de Montréal. Mais
t'as pas besoin, le projet
j'ai
est
pas...
annoncé.
Exactement. Tandis que les agriculteurs, j'en reviens que ça, les agriculteurs de Mirabel vont dire, hey, pas question. Pétition, groupe, médias. Députés, tout le kit. Alors, la géographie rapprochée sur des projets structurants qui peuvent nous amener énormément de bénéfices futurs fait en sorte que ça fait énormément hésiter les décideurs. Et l'autre chose qu'il explique aussi, c'est que le temps joue aussi contre les bâtisseurs, et ça, c'est ce que j'expliquais en entrée de jeu. Les coûts sont immédiats, les bénéfices arrivent plus tard. Fait que quand tu construis un tramway à 7,6 milliards, hein, tabarnak, 7,6 milliards, un troisième lien à 10 milliards, voyons, on n'a pas cet argent-là, ça n'a pas de bon sens. On fait déjà des déficits, on s'y... Mais alors qu'on sait très bien que TGV, troisième lien, puis moi, j'inclus le tramway aussi là-dedans, il va avoir des bénéfices plus tard en termes de mobilité. Il va avoir des bénéfices plus tard en termes de densification de la ville. Mais ça vient tellement retardement que le coût du projet... nous scie les jambes, que ce soit les citoyens ou les politiciens, lorsque ça arrive.
Puis géographiquement, je trouve que c'est tellement un lien qui peut se faire sur tout, sur beaucoup de projets, du
ben
moins.
Oui.
T'as des TGV, t'as nommé les agriculteurs. Un troisième lien à l'est qui passe par l'île d'Orléans.
Très bon.
Quand l'idée est arrivée dans les médias, c'est qui que t'entendais? Tout le monde qui vit à l'île d'Orléans, mm-hmm. qui disait wow, 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 on vit ici, nous autres. Le tramway. Un peu récemment, quand on a voulu couper des arbres sur René Lévesque pour faire passer le tramway, mais on découpe d'ailleurs, là, mais
ouais.
La levée de boucliers qui s'est faite à ce moment-là parce que géographiquement, c'était près des gens.
Mm-hmm. En effet, tu as entièrement raison. Il y a des dossiers, par contre, aussi que les qu'on reçoit par texto, que c'est vrai que des fois, c'est des opposants qui viennent de très loin. Puis là, c'est drôle, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec Alex Laramé. GNL Québec, qui est Saguenay-Côte-Nord, bien, c'est Montréal et les gens concernés qui ont fait pression. Ouais, ça, c'est un autre problème de la province.
Montréal
ouais. veut tout décider.
Ouais, puis ça, on se rejoint, là, parce que, ouais. mettons, je parle du troisième lien, des d'Orléans. Les personnes de l'île d'Orléans s'opposaient. Mais tu avais des personnes qui habitaient à 250 km
ouais.
qui expliquaient pourquoi ce projet-là il est pas bon pour notre ville.
C'est ça.
Mais c'est, attends, c'est parce que tu n'habites pas ici.
Exactement. Et M. Simard termine son texte très intéressant. Je savais pas ça. Même la Tour Eiffel a eu ses opposants. À la fin du 19e siècle, des artistes et des intellectuels la dénonçaient comme une monstruosité métallique qui allait défigurer Paris. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer Paris sans elle, comme quoi les projets les plus contestés d'une époque deviennent parfois les symboles de la suivante.
C'était dénoncé, puis on avait passé proche de la retirer, la Tour
ouais.
Eiffel, hein, parce que ça avait été mis en place, si je ne me trompe pas, pour une exposition universelle. Puis on avait passé très, très près de la retirer par la suite, justement à cause de ces personnes-là
ouais.
qui criaient « Non, c'est dégueulasse, c'est affreux, on peut pas garder ça. Hey, » Finalement, Paris sans la Tour Eiffel, ce serait pas Paris.
Exactement. Donc, voilà, moi, j'ai des attentes pour la région de Québec envers le prochain parti politique qui prendra le pouvoir. Puis si jamais c'est la CAQ qui le reprend, bien, s'il vous plaît, on fait avancer les projets, on fait avancer la région de Québec, on en a besoin. L'immobilisme, c'est la pire chose qui peut arriver pour une région. Est-ce qu'on a encore des problèmes dans la circulation, Mathias?
Ah oui, pas le choix de revenir. Là. Pour l'instant, l'accès au pont Pierre-Laporte, toujours très difficile à l'instant où je vous parle. Puis la raison derrière ça, c'est un accident qui a eu lieu un peu plus tôt, hauteur boulevard Champlain, à la sortie du pont. Là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est réglé, mais ça s'est accumulé au cours des derniers instants. Là, donc, la 73, du pare-choc à pare-choc jusqu'à la sortie rue Beaulieu, 20 direction est, très difficile. Même chose en direction ouest. L'accès au pont Pierre-Laporte puis pont de Québec live, c'est le bordel. Attendez un 30 minutes, puis ça devrait être mm-hmm. beaucoup mieux normalement. Pas le choix de dire la 20 direction ouest aussi, entre Taniata, président Kennedy, au ralenti. Même chose, Guillaume Couture, direction ouest, hauteur chemin du fleuve. Et à part de ça, il y a comme quelque chose qui s'est rajouté aussi. Là, Henri IV, direction nord, hauteur des quatre bourgeois, comme le refoulement du pont qui s'accumule d'intravaux à hauteur de chemin Sainte-Foy, donc un peu d'attente là aussi. quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021 par texto.
Dernière pause de l'émission, on en jase. Et après la pause, je vais juste vous parler d'une stupéfaction que j'ai vécue en lisant le dossier de la presse sur la violence conjugale. Des femmes sont obligées de faire un outrage au tribunal pour se sauver de leur ex-conjoint violent. Je pensais pas qu'on était allé au Québec.
Juste ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
13h50 dans 10 minutes, c'est le retour de Gravel avec Denis Véro et Audrey, la seule équipe complète cette semaine à Boulevard 102.1. Mathias, on a parlé beaucoup de femmes battues hier quand on a parlé de ces complotistes qui disaient qu'ils étaient des femmes battues de vivre la COVID là, parce qu'il y avait des flèches à suivre. À l'épicerie. Puis ça m'a fait penser, j'ai dit, mon Dieu, ils doivent jamais aller dans un parc d'attractions au village vacances Val-Cartier. Il faut qu'ils suivent le chemin pour se rendre à glissade ou à l'attraction.
Ils vont probablement pas.
Ben c'est ça. Fait que sinon, là, ils se sentent comme des femmes battues. Ben oui. Et des fois, le hasard fait bien les choses parce que la presse a sorti un excellent dossier sur la violence conjugale. Et le texte qui est nommé, c'est « Quand fuir devient un casse-tête ». Ça a attiré mon attention. J'ai dit, mais de quoi ils vont parler? Et là, évidemment, vous comprendrez, c'est un nom fictif, Cassandra, qui nous parle, qui a été victime de violences conjugales pendant 13 ans et qui a encore des frissons en repensant à ces menaces qui ont été proférées par son ex-mari. Et écoute ça, là. Puis, tu sais, dans COVID, tu vas comprendre qu'on voyait ça là, régulièrement, là. Ces menaces-là. C'est quand je vais t'enterrer, pas personne va pouvoir te trouver. Et... Tu t'es senti de même hein, dans la COVID?
Ouais, c'est pareil que ça.
C'est ça, exact. Ouais, non, pas vraiment, c'est ça, là, c'est mettons. Sûr. Et puis là, elle explique qu'évidemment, ben, toute cette violence-là faisant en sorte qu'il est venu la séparer de son monde. Puis comme elle avait un enfant, ben, elle ne voulait pas se séparer. Fait qu'elle est restée dans cette violence-là pendant quand même assez longtemps. Et elle a repris justement son autonomie à partir de 39 ans. Où j'ai sursauté, c'est le fait que Cassandra vit dans une petite municipalité. Une petite initiative, peut-être de quoi? 800, 1000 âmes, là. Tu sais, qu'il y a une petite rue principale.
Ouais.
C'est ça. Là, t'es...
Tout le monde connaît tout le monde.
Exactement. Et là, le juge dit, ouais, mais tu sais, vous avez un enfant, fait qu'il va quand même avoir la garde partagée. D'un, des fois, je me questionne à savoir, OK, on renvoie vraiment un enfant chez un conjoint ou une conjointe, là, ça pourrait être ça, violent. T'sais. Ça, d'un, je comprends pas les jugements par rapport à ça, mais bref. Mais c'est pas juste ça. C'est qu'on l'oblige à rester dans sa petite municipalité pour pas sortir l'enfant de son milieu. Puis pour pas faire en sorte que ça soit compliqué dans la garde partagée.
Attends, mais ouais, mais là, c'est parce qu'il y a d'autres solutions. Là.
Exactement. Donc là, ça fait en sorte que cette femme-là, et là, je le répète, c'est un nom fictif, Cassandra, ben, elle est obligée de se trouver un appart dans sa petite municipalité. Mais comprends-tu que son ex-violent, il sait exactement où elle habite?
Puis son ex-violent l'a menacé de mort. Là,
ouais, son ex-violent, il a dit mal, quand je vais t'enterrer, pas personne va savoir où t'es.
Fait qu'elle est obligée d'être à côté de ce gars-là.
En plein ça.
En permanence.
Ouais, puis là, il n'y a pas de bracelet anti-rapprochement parce qu'il n'a pas été condamné. Elle s'est sauvée en disant, écoutez, ça n'a pas de bon sens.
On n'aurait pas pu dire, ah ouais, ben, tu sais, si vous habitez à 25 minutes, 30 minutes, c'est correct.
En plein ça.
Mais non, c'était pas acceptable, ça, comme solution.
Ouais. Fait que c'est tout ce qu'elle est obligée de faire, un outrage au tribunal.
Ah.
Pour changer de ville. Elle dit non, moi, il n'y en a pas question. Il n'est pas question que je reste là, que mon ex save où je reste, puis que je vive dans cette peur-là et cette crainte-là. Puis il y a une autre personne aussi, une autre femme, là, Lise, un nom fictif qui a vécu la même chose, qui se retrouve dans le même article. C'est un dossier de deux articles dans la presse qui a fait la même chose. Fait que là, il mange un outrage au tribunal. Là, évidemment, mettez son condamné maintenant à des travaux communautaires, des affaires comme ça, mais c'est pas grave. Ils vivent avec un dossier d'outrage au tribunal, un dossier criminel.
C'est ces femmes-là qui se retrouvent à être des criminels.
Ouais.
Parce qu'ils ont voulu s'éloigner d'un homme qui était menaçant pour leur propre survie.
Ouais. Est-ce tout le monde à l'envers?
Hey, ça n'a pas d'allure, Jeff, là.
On a parti l'émission avec une situation qui n'a pas d'allure où on a dit à un immigrant français, ça n'a pas de sens que tu aies enterré ta fille qui est morte subitement à 21 ans, tu n'auras plus ton permis de travail. On est passé à WestJet qui offre la carte de crédit hors WestJet pour pouvoir bénéficier de meilleurs plans de traitement quand tu es pogné au Mexique. Puis là, on finit avec notre société, notre système de justice qui dit aux femmes battues, non, non. tu vas vivre dans la crainte puis dans la peur, toi. Puis, ouais, il y a sûrement des chances que ton ex vienne cogner chez vous puis t'as ressacré une volée, mais si tu passes, c'est outrage au tribunal.
Mais c'est parce que ça arrive souvent. J'ai l'impression que le tribunal ou la DPJ finissent par prendre un mauvais camp. Là, j'ai
oui.
envie de le dire
ben,
comme
ça. Ça.
Un cas récent dans les médias, l'homme qui regardait de la pornographie juvénile, mm-hmm. je sais pas si tu as vu passer pendant tes vacances. C'est un homme qui consommait de la pornographie juvénile
ben oui.
à répétition.
Puis on a repitché l'enfant, là.
Cet homme-là avait des antécédents de violence conjugale. Il y avait eu des en cours par rapport à violence conjugale envers son ex-conjointe. Puis là, on avait renvoyé l'enfant en garde chez l'homme en question qui ouais. consommait de la pornographie juvénile. Puis on disait à la conjointe, « Ouais, là, madame, c'est parce que vous avez quand même un comportement agressif et négatif envers votre conjoint. » C'est problématique.
Ouais, donc le système protège les gens qui sont violents, les abuseurs, au détriment des victimes. On va terminer l'émission là-dessus. On va souhaiter qu'on soit un petit peu plus good vibe
oh oui.
pour commencer.
Hey, passez une belle journée quand même. on se revoit demain. On va avoir du fun demain, les
Exactement.
Amis.
Puis parlant de fun, Denis Gravel s'installe dans quelques instants avec Véro et Audrey. Vous êtes à l'écoute de Boulevard 102. Merci d'être là, guys. À demain.